Alors, au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Je suis Dominique Parent, agente culturelle aux événements, à la direction de la programmation culturelle. Donc, dans le cadre des Midis littéraires, nous sommes très fiers d'accueillir le romancier essayiste nouvelliste Neil Bissoundat, qui s'entretiendra aujourd'hui avec la journaliste et écrivaine Aline Apostolska. Nous espérons que cette série d'entretiens avec des écrivains marquants de la littérature québécoise vous permettra de mieux connaître leur travail, leurs sources d'inspiration, leur rituel d'écriture, autant que les aspects de leur vie qui ont fait naître le désir de création. Je vous rappelle qu'il y aura une période de questions à la fin de l'entretien. Nous avons deux micros de part et d'autre. Si vous pouvez vous donner la peine de descendre au micro, comme ça on pourra enregistrer également vos questions qui seront diffusées, tout comme l'entretien en balado-diffusion. Donc, je vous invite également à être des nôtres le 10 janvier pour rencontrer Denise Desautels, poète, romancière et auteure de récits et de livres d'artistes. Sans plus tarder, je cède maintenant la parole à Mme Apostolska pour qu'elle vous présente son invité, celui que vous appréciez déjà certainement à travers ses livres, M. Neil Bissoundat. Bonne conférence.
Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer. C'est la dernière rencontre de l'année 2007 qui, j'espère, vous aura donné envie d'être plus fidèle encore, parce que c'est vraiment un public fidèle qui vient ici. On en est ravis. Alors, notre dernier invité de l'année 2007 est bouillonnant derrière le rideau et lui et moi, on a très hâte de discuter et je vais le présenter brièvement. Conformément au bilinguisme de ce pays, la Grande Bibliothèque propose des livres en français et en anglais. Au moins en français et en anglais, car toutes les langues sont en fait autorisées dans les bibliothèques comme dans les dépôts de manuscrits au Québec et au Canada, ce que j'aime à rappeler dès que je le peux, car c'est suffisamment rare pour être souligné. Je suis donc très heureuse que mon invité du jour soit un écrivain québécois anglophone, écrivant en anglais, car ils sont nombreux au Québec, ce qui nous permettra de les recevoir ici, également dans le futur. Ceci tombe bien, car pour notre invité, l'altérité repose sur la conscience de l'identité individuelle. Même s'il rappelle que le roman est destiné à suivre l'histoire d'un personnage sans lui calquer des analyses sociopolitiques, il sonde de livre en livre tous ces mondes en lui, comme le disait le titre d'un de ses romans, se penchant au long d'un dialogue intime avec son héros principal sur les nœuds qui tissent le destin individuel avec les destins collectifs, faisant toujours primer la conscience et donc la liberté personnelle, garante d'une cohabitation, d'une communication et finalement d'une transmission sereine. Je ne me considère pas comme un intellectuel, mais comme un romancier, aime-t-il à préciser. Romancier donc, et même neveu d'un romancier prix Nobel de littérature. Il est également nouvelliste, essayiste et journaliste tout en enseignant la création littéraire à l'Université Laval. Il écrit donc en anglais et ses livres ont été uniformément traduits chez des éditeurs français ou québécois. Son controversé essai « Le marché aux illusions » lui a valu le prix Spirale en 1995. Il a publié un recueil de nouvelles et 6 romans qui lui ont valu d'être finaliste au prix littéraire du gouverneur général et de remporter 2 fois le prix Hugh MacLennan en 2002 et en 2005. Pour nous rencontrer, il est donc venu de Québec, où il vit depuis 12 ans, comme il avait vécu 7 ans à Montréal en venant de Toronto, où il avait vécu 16 ans en venant de beaucoup plus loin encore. Mais peu importe au fond d'où il vient, puisqu'il est écrivain, il vient avant tout du pays de la littérature. Et justement, nous sommes dans une bibliothèque. Je vous remercie d'accueillir M. Neil Bissoundat.
Merci. Alors, après cela, j'ai rien à ajouter.
Alors, je suis ravie de vous voir aujourd'hui, On s'était rencontrés une fois, je pense.
Oui, à la Maison des écrivains.
Oui, sur un débat dont je ne me souviens plus tout à fait le sujet, mais peu importe, je me souviens qu'on avait bien débattu. Alors, c'est une série donc destinée en fait à voir comment votre vie personnelle a cheminé avec votre vie, avec votre création, et comment la vie a fait de vous un écrivain. Donc, la première question, notre public fidèle la connaît. Nom, prénom, date et lieu de naissance.
Bisundath, Neil, le 19 avril 55, né à Trinidad, aux Antilles.
C'est ça, je ne savais rien de Trinidad et Tobago.
Trinidad et Tobago.
Donc, je suis allée sur Internet. J'ai vu des très belles photos.
Oui, des mensonges, il faut le dire.
Ah bon, très bien.
Les photos ne révèlent pas tout, il faut le dire. Hein. Dans les photos, on ne voit pas toute la violence, tout le racisme qu'on trouve à Trinidad. Alors, on voit les plages, bien sûr,
c'est
le
ça.
Soleil. Hein, mais on ne voit pas tout.
Oui, ça c'est certain, j'en doute pas. Dites-moi qui était votre famille, vos parents.
Je vais commencer en Inde à la fin du 19e siècle, lorsque mes arrière-grands-parents, qui vivaient en Inde d'une pauvreté écrasante, en effet, ont quitté l'Inde ils ont accepté un contrat des autorités britanniques pour se rendre à Trinidad, cette île à des milliers de kilomètres de chez eux, pour essayer de se faire une nouvelle vie. Ils étaient très pauvres, alors ils sont arrivés à Trinidad à la fin du 19e siècle. Et mes arrière-grands-parents, tout comme mes grands-parents, ont commencé la vie dans les plantations de canne à sucre, dans les rizières. Mais ils comprenaient, c'était une famille qui comprenait l'importance de l'éducation. Alors, mes grands-parents, même pauvres, se sont transformés. Ils ont quitté tous les deux les plantations et la terre, quoi. Un pour devenir journaliste, nouvelliste, mon grand-père Naipaul.
Ah oui.
Et l'autre, le grand-père Bisundath, s'est transformé en homme d'affaires. Et tous les deux ont réussi à envoyer leurs enfants à l'université. Alors que d'une génération à l'autre, ceux qui ont commencé dans les plantations de canne à sucre avaient des enfants qui étaient devenus médecins, avocats, professeurs d'université, etc., et écrivains, bien sûr.
Mais oui, alors vous faites effectivement référence à la branche Naipaul, c'est votre oncle qui a eu le prix Nobel de littérature en 2001. Mais c'est très rapide, comme effectivement. D'abord, c'est une histoire de l'Empire britannique, on dirait, parce qu'on est parti d'Inde, ensuite on arrive à Trinidad, puis vous poursuivez.
Oui, bien sûr. Si j'existe, et je suis bien conscient de cela, si j'existe, c'est grâce au colonialisme britannique. Parce que mes parents vivaient, mes familles vivaient dans des parties en Inde, je ne sais même pas où, franchement.
Ah oui.
Dans l'état de Uttar Pradesh, mais je n'ai jamais été là. Mais je sais que mes parents ne seraient jamais nés. Moi, je ne serais pas là si les autorités britanniques, le colonialisme britannique, n'avaient pas créé les conditions qui, en fin de compte, m'ont créé.
L'Uttar Pradesh, c'est le seul état de l'Inde que je connais.
Ah oui.
Bon. Ça, c'est une autre... Donc, vos parents, à vous, étaient déjà de la génération qui avait sauté une case sociale, on va dire.
Oui. Mon père était un homme d'affaires et ma mère était un enseignant à l'école secondaire. Elle enseignait l'anglais, la littérature anglaise, le français, la géographie, l'histoire.
Donc, vous êtes tout de suite élevé dans l'idée, bien sûr, qu'il faut faire des études. Quel est votre rapport déjà enfant, aux premières années d'études, à l'école, à l'enseignement?
Ah, je détestais l'école. J'adorais la lecture, par contre. Lorsque j'étais jeune, j'étais entouré de livres. Ma mère, elle est décédée maintenant, mais qui était la sœur de V.S. Naipaul, lisait énormément, comme toutes ses sœurs, et frères. Alors, j'étais entouré de centaines de livres. Très jeune, j'ai appris à lire vers l'âge de 4 ans.
Ah oui, oui.
Oui, c'est ma mère qui me l'a enseigné. Et j'ai commencé à lire, et toujours, c'est très jeune jusqu'à aujourd'hui, mes cadeaux préférés, ce sont les livres. Alors, la lecture, déjà, faisait partie de ma vie. La lecture me définissait aussi, je dirais, parce qu'à Trinidad, à cette époque-là, là, je parle de la fin des années 50, les années 60, j'étais le seul dans la famille qui aimait la lecture. Alors, j'étais entouré de cousins, de cousines, j'avais une sœur, un frère. Mais les autres ne lisaient pas. Ils aimaient aller à la chasse, à la pêche, jouer au cricket, jouer au football et tout le reste. Et bien sûr, j'aimais les sports. Mais pour lire, j'ai su très jeune qu'il fallait que je crée l'endroit. Il fallait que je sois assez assez sévère, il faut le dire.
Ben, parce que les gens
lorsque j'avais mon livre,
les gens
ne, c'était presque une insulte pour eux autres de me voir lire. Et l'idée était toujours que je devrais venir me joindre à eux pour aller tuer des animaux. Ça ne m'intéresse pas.
Mais je comprends très bien ce que vous dites là. C'est aussi vrai pour l'écrivain qui doit se retirer pour écrire. Et il y a cette étape de la solitude devant la feuille de papier ou devant le livre qui est tout à fait incontournable.
Oui, incontournable. Et c'est un besoin, je crois, un besoin très personnel. Je me demande toujours pourquoi est-ce que je suis le seul, si je me compare à mon frère ou à ma sœur, même à mon père. Je suis le seul qui a besoin de cette solitude, qui a besoin de passer des heures et des heures avec des mots, des personnages, des livres.
Bon, c'est des choses qu'on n'explique pas, mais c'est quand même une lignée entre votre mère, son frère et vous. Dites-moi quel est le rapport à la langue maternelle. C'est quoi votre langue maternelle?
C'est l'anglais.
C'est l'anglais.
Oui.
Donc, ils ne vous ont pas transmis, dans le passage de l'Inde à Trinidad, la langue est perdue?
La langue est perdue, la religion aussi. Tout ce qui est resté, c'est la
cuisine.
C'est
l'hindi, la langue à l'origine?
Oui. Mes grands-parents étaient les derniers à parler hindi.
Ah oui.
Alors, c'était pour eux un moyen, pour mes grands-parents, un moyen de se parler sans que les enfants comprennent, hein, parce qu'il y avait des secrets. Alors, ils étaient les derniers. Mes parents ne parlaient pas hindi. Mes grands-parents étaient également les derniers à pratiquer la religion, l'hindouisme.
L'hindouisme, oui.
Oui. Mes influences culturelles, lorsque j'étais jeune, ce n'était plus l'Inde. L'Inde était déjà pour moi un pays comme les autres, comme la Chine. Je ne ressentais, et je ne ressens toujours pas, de lien spécial, de rapport avec l'Inde. Je m'intéresse à ce qui se passe là comme je m'intéresse à ce qui se passe en Chine ou au Japon. Mais l'influence culturelle venait plutôt de l'Amérique du Nord. Il y avait une certaine influence britannique lorsque j'étais jeune, surtout à l'école, parce qu'on étudiait la littérature anglaise de l'Angleterre. Et le système d'éducation était basé sur le système d'éducation britannique. Alors, il y avait cette influence-là. Mais au-delà de l'école, la musique qu'on écoutait, les revues qu'on lisait, les films qu'on voyait, venaient tous des États-Unis.
De votre côté, à vous, je le comprends très bien. En plus, personnellement, je peux le comprendre très bien. Mais du côté de vos parents, comment est-ce qu'eux ont expliqué cette coupure ou cette rupture? Est-ce que c'était pour vous donner plus de liberté? Parce qu'il y a toujours, là-dedans, il y a une liberté, mais il y a toujours une perte aussi.
Il y a toujours une perte, mais il y a aussi d'autres choses, d'autres richesses qui viennent. Je pense qu'on n'en a jamais parlé. Je crois que tout le monde acceptait que, loin de l'Inde, loin de la vie indienne, les choses allaient inévitablement changer et que les gens allaient changer. Vous savez que quand j'ai dit que même la cuisine, ce n'est que la cuisine qui est restée, même la cuisine indienne des Antilles n'est pas la cuisine indienne de l'Inde, parce que les épices ne sont pas les mêmes.
Oui.
Hein? Alors, tout a changé. Certaines choses, certains aspects ont disparu, mais on a acquis d'autres moyens de s'exprimer, d'autres moyens de vivre. Alors, on a changé. Il me semble que c'est une évolution tout à fait normale et naturelle.
Est-ce que Trinidad et Tobago, cette petite île...
Qu'on oublie toujours.
C'est la petite île d'en haut. Trinidad, c'est nouveau pour moi, c'est pour ça que j'en... Mais j'ai regardé ça avec plaisir. C'est quand même un lieu, justement, comme toutes les Antilles, de grands brassages et de grands mixages. Est-ce que vous avez, vous, le souvenir d'une société déjà pluriculturelle?
Il faut définir le mot.
J'ai fait bien attention de ne pas prononcer le mot multiculturel. J'ai dit pluriculturel, mais ce n'est pas non plus interculturel, parce que les gens habitent les uns à côté des autres. Oui.
Il est difficile de trouver l'étiquette pour décrire la société que j'ai connue lorsque j'étais jeune.
Oui.
Parce que j'avoue qu'aujourd'hui, je ne vais jamais à Trinidad. La dernière fois que j'y suis allé, c'était au décès de ma mère en 84. Alors, comme l'Inde, pour moi, Trinidad est aujourd'hui juste un autre pays.
Oui, oui.
Mais lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais à l'école, par exemple, je vous donne un exemple très simple. J'avais des amis d'origine indienne, des amis musulmans, des amis noirs, des amis blancs, des amis chinois. Mais on ne s'invitait pas à la maison. Mm-hmm. On se rencontrait à l'école, on était amis à l'école, mm-hmm. mais l'idée que je pourrais un jour inviter un de mes amis noirs chez nous, c'était inconcevable.
Pourquoi?
Ça ne se faisait pas. Et lui non plus, il ne m'invitait pas. Jamais.
Pourtant, vous aviez des parents qui étaient d'emblée ouverts aux autres cultures.
Pas tout à fait. Le racisme dont j'ai parlé tout à l'heure...
Oui.
était un racisme qu'on trouvait dans toutes ces communautés culturelles, ces communautés différentes. Je sais que mes grands-parents, par exemple, détestaient les Noirs. Détestaient les Noirs. Ils étaient hindous, ils détestaient également les musulmans. On faisait semblant. Dans le marché public,
mal fini,
on faisait
d'ailleurs.
Semblant. Mais bien sûr, lorsqu'on est tout seul, on croit qu'on a la liberté de dire ce qu'on pense vraiment. Et c'est là que, lorsque j'étais jeune, je voyais parfois mes parents, mes grands-parents avec des gens d'autres races. Et je faisais semblant d'être ami de ces gens-là. Mmh. Mais dans l'intimité familiale, c'était autre chose. Et ça, jeune, je n'ai jamais pu accepter.
Déjà, c'était quelque chose que mmh. vous aviez vécu difficilement.
Oui.
À partir de quel âge vous êtes conscient de ce que vous décrivez là?
Moi, je dirais que ça a dû commencer vers l'âge de 8-9 ans.
Oui. Là, on est, de toute façon, on n'est pas encore rendu à votre adolescence. On est encore non. dans cette période-là dont on parle maintenant parce que vous dites, j'ai lu beaucoup de choses sur vous, vous dites à 10 ans, vous déclarez à 10 ans vouloir devenir écrivain.
Je l'ai su à l'âge de 10 ans.
C'est tôt. Qu'est-ce qui a déterminé? Parce que dans le fait d'être écrivain, il y a... consciemment ou inconsciemment, le fait de dire « ce monde ne me convient pas, je vais en faire un autre ». Il y a ça dans le fait de... Qu'est-ce qui fait que déjà à 10 ans, vous déterminez votre place, qui est une place en fait un peu à côté aussi? Est-ce que c'est juste l'influence de la mère ou...
C'était l'influence de ma mère, des livres que je lisais, de cet amour pour la lecture, pour l'aventure, pour les livres qui me transportaient ailleurs. Mais il y avait un événement lorsque j'avais 10 ans. Mon oncle, V.S. Naipaul, qui vit depuis 47, je crois, en Angleterre, était à Trinidad. Il était venu rendre visite à ma mère. Et je me souviens de ce soir-là, il était à la table, ils soupaient ensemble, ma mère, mon père, mon oncle et quelques autres membres de la famille. Et moi, j'étais dans la bibliothèque de ma mère, devant ses livres. Et... pour la première fois, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pour la première fois, j'ai vu les livres de mon oncle sur l'étagère. Et je fais le lien avec ces livres-là, avec son nom, et l'homme qui mangeait avec mes parents. Et là, je me suis dit, ah bon, lui, il écrit des livres. L'objet que j'adore, il écrit des livres pour gagner sa vie. Et j'avais une grand-mère, ma grand-mère paternelle, qui voulait absolument que je sois médecin ou avocat comme ses fils. Et ça ne m'intéressait pas, déjà, ça ne m'intéressait pas. Et je me souviens très bien de ce moment-là, c'était comme un moment éclatant où je me suis rendu compte que j'aimais déjà raconter des histoires. Mais c'était tout simplement quelque chose que j'aimais faire.
Oui.
C'est là, en faisant le lien entre les livres de mon oncle et mon oncle, que j'ai su que, ah, ça c'est possible. Mais je savais également que ce ne serait pas possible si je restais à Trinidad. Mm. Parce que les gens ne lisaient pas, ce n'était pas une société... littéraire.
Et parce que lui-même était parti déjà.
Il était parti et pour les mêmes raisons.
Mais pourtant, quand il a eu le prix Nobel en 2001, on a beaucoup parlé de Trinidad et on l'a présenté comme un Trinidadais, alors que vous dites qu'il vivait à Londres, il vit à Londres depuis 47.
Mm-hmm. Oui, les gens de Trinidad ont bien sûr, mais lorsqu'on réussit, hein, ils voulaient tout ça. Enfin, le fils qui revient. Mais ça, c'est une réaction publique, politique, de fierté qu'on ne peut pas contrôler. Mais moi, ça ne me touche pas.
J'ai une question à vous poser sur le sens de l'Empire britannique dans cette, je dirais, ou de la culture britannique plutôt, parce que vous décrivez une société où il y a plusieurs cultures et plusieurs origines qui ne se fréquentent pas entre elles et qui sont racistes les unes vis-à-vis des autres. Et puis, finalement, toutes se réfèrent à un seul point commun qu'elles ont, et qui est la culture britannique. Est-ce que cette culture a réussi dans ce temps-là, c'est-à-dire les années 50-60 à Trinidad, C'est peut-être vrai pour l'ensemble des Antilles qui sont à moitié britanniques, à moitié françaises, etc. Est-ce qu'elle a réussi à faire un lien ou à créer quelque chose de commun entre ces communautés ou pas du tout?
Pas du tout. Pas du tout. Ce n'était pas le but de l'Empire britannique. Hein? Ils ont créé des pays artificiels pour les besoins de l'Empire.
Oui.
Si mes arrière-grands-parents sont allés à Trinidad avec la possibilité de refaire la vie, de trouver une nouvelle vie, de trouver un avenir, ce n'était pas parce que les Britanniques voulaient leur offrir cette possibilité, c'est parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre pour remplacer les esclaves libérés dans les plantations de canne à sucre, tout simplement. Mmh. Alors, ça ne faisait pas partie du projet du colonialisme britannique. Non, laissez les gens tout seuls, tout simplement, et débrouillez-vous comme vous voulez.
Mais en plus, dans les Antilles, il y a eu cette chose terrible qui font que les anciens esclaves ont eux-mêmes, une fois devenus libres, appelé d'autres humains pour être leurs propres esclaves, cette chaîne-là, et ils sont allés les chercher encore plus loin.
Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que vous voulez? L'histoire est très compliquée. Les êtres humains sont très compliqués. C'est une des raisons que toutes les déclarations politiques, etc., etc., me laissent toujours un petit peu froid. Je sais que les êtres humains, on ne peut pas définir facilement les êtres humains. Et les êtres humains même ne se définissent pas comme tels. On peut se donner des étiquettes pour essayer de présenter un certain visage au monde. Mais derrière ce visage qu'on construit, qu'est-ce qu'il y a? Et ça devient très compliqué. Il est parfois difficile de juger les gens aussi à cause de cela.
Et justement, la littérature qui ne juge pas, mais qui se contente de pointer les choses est peut-être une tentative, peut-être la seule, peut-être la plus juste possible.
C'est une des raisons que je suis romancier. Lorsque j'écris un roman, vous savez, la question qu'on me pose toujours, hein, c'est d'où viennent vos idées? Non, il y a deux questions qu'on pose toujours à tous les écrivains, je crois. La première question, c'est est-ce que vous écrivez avec un crayon ou un ordinateur?
Jamais je poserai cette question-là.
Mais ça vous étonnerait.
Pas moi.
Tout le monde. Non, pas vous, pas vous. Mais la deuxième question. Alors moi j'utilise l'ordinateur.
On a réglé la question. Bon, de toute façon, elle n'était pas dans toutes mes questions.
Mais la deuxième question, c'est d'où viennent vos idées? D'où vient l'inspiration? Et je dis toujours aux gens, écoutez, lorsque je commence à écrire un roman, je n'ai pas d'idée. Je n'ai aucune idée. J'ai un personnage. J'ai un personnage, c'est pas un personnage que j'ai construit, mais qui est venu me chercher. Et lorsqu'il arrive dans une scène riche, complète, je sais, c'est quelque chose qu'on ressent, question d'instinct, que c'est le début d'un roman et qu'il y a un personnage là qui est vivant, qui veut me raconter son histoire. Alors là, je me lance dans ce qui est pour moi 3 ans d'exploration. Pour moi, l'écriture d'un roman, c'est une exploration. Si je suis chanceux, ce serait aussi une période de découverte où le personnage me dévoile sa vie. Il me permet de quelque chose, de vivre une vie que je ne pourrais pas physiquement vivre, mais qui également m'offre l'opportunité de confronter certaines situations et peut-être de comprendre la vie de quelqu'un que je ne connais pas, la vie ailleurs, de voyager d'une façon.
Alors, c'est deux questions que je ne pose pas. Pourquoi? Parce que normalement, comme on est censé... Là, on est rendu à 8, 9, 10 ans, là, on est rendu. On a encore beaucoup de temps. Donc, normalement, si on chemine au cours de votre vie, on va finir par arriver à ces questions-là. Mais évidemment, l'autre raison, c'est que néanmoins, ce que vous dites est important, même par rapport à la lecture, parce que l'écriture, c'est effectivement, vous venez de le décrire, pour vous, suivre un personnage, il reste que vous le suivez à travers le filtre de qui vous êtes. Et de ce que vous êtes, de votre histoire, de votre psychologie, etc. Mais comme on aborde un personnage dans un roman qu'on découvre, c'est-à-dire qu'on le comprend à travers ce qu'on est, alors il y a ce dialogue entre vous et lui.
Non, il n'y a pas de dialogue. Il y a une vie partagée.
C'est la cohabitation.
La cohabitation. Exact. Je vis exactement ce qu'il vit. Et je ressens ce qu'il ressent. J'écris ce qu'il me montre. Et voilà le rôle du romancier, d'utiliser le langage que j'ai pour essayer de saisir aussi fidèlement que possible, aussi précisément que possible, ce monde que le personnage me montre. Parfois, le personnage va dire ou faire des choses que moi, personnellement, je peux accepter dans la vie réelle, mais je n'ai pas le droit de le juger, je n'ai pas le droit de le condamner. Si j'essaie de le faire, je vais le tuer. Je vais tuer le roman également. Alors, c'est une question d'une certaine disponibilité où je le suis. Je ne remets pas en question. Il doit faire, il a le droit de faire tout ce qu'il veut, sans que je le condamne, sans que je lui demande pourquoi. Le pourquoi, pour moi, ne fait pas partie d'un roman.
Mais parce que c'est ça aussi, respecter l'humain. Il est capable de faire vraiment beaucoup de choses, l'humain.
Exact. Et ce que j'adore, c'est que l'être humain est tellement imprévisible.
Oui.
Hein? Imprévisible à un point où on n'est pas simple. On est contradictoire. J'adore, c'est une qualité humaine qui me plaît énormément et que j'essaie d'aller chercher chez mes personnages.
Alors, on va retourner
D'accord, on tourne à l'enfance.
Dans les années 60 à Trinidad, mais on ne va pas y rester longtemps parce que vous n'y restez pas longtemps. Non. Je voulais vous poser une question littéraire. Quels sont, vous souvenez-vous, quels sont, d'abord, quel est le premier livre que vous ayez lu à 4 ans? Et puis, quels sont les livres qui ont formé votre conscience d'enfant? Ce sont des livres en anglais, bien sûr.
Ce sont des livres en anglais, mais des livres qui racontaient, par exemple, les aventures du roi Arthur.
Oui, oui.
Des fables d'un petit peu partout dans le monde, de la Thaïlande, du Japon, de la Chine, etc. Je lisais beaucoup de cela, beaucoup de...
De mythologie grecque. Ah oui, j'avais la collection. Moi, à votre âge, à cet âge-là, j'avais les mythes de tous les pays.
Ah oui, bon, voilà. C'est la même chose. Et je crois que c'était une façon pour moi de m'échapper de cette réalité qui ne me plaisait déjà pas.
Oui. Hein?
Ouais. Très jeune, j'avais envie de quitter Trinidad. Et je crois que c'était un moyen pour moi de quitter ce pays, cette société qui déjà ne me satisfaisait pas.
Mais quitter un pays, une société, c'est aussi quitter sa famille. Est-ce que c'était aussi pour vous quelque chose de convenu dès l'adolescence?
Oui, c'était tout à fait normal parce que je l'avais déjà vu. Mes oncles, mes tantes avaient déjà quitté la famille pour aller s'établir ailleurs. Alors l'idée de partir un jour, de laisser derrière soi la famille, c'était tout à fait normal. Ça faisait partie de la vie, quoi. Ça faisait partie de l'évolution de l'individu. Si on voulait aller chercher autre chose dans la vie, il fallait le faire, trouver son indépendance, son autonomie.
Et 18 ans, vous partez.
Oui.
C'est vraiment... là, on est en 1973. Vous n'attendez même pas l'indépendance de Trinidad qui va suivre années plus tard.
Non. Trinidad est devenu indépendant en 62.
Ah oui?
Oui.
Mais qui a quitté l'Empire britannique en 76, j'ai vu.
Ils ont probablement quitté le Commonwealth en 76.
Ah oui,
ils
sont peut-être. D'accord.
Ils sont devenus une république, je crois.
Mais devenu indépendant en 62, quitté le Commonwealth en 76.
À peu près, parce que je n'étais pas là. Ouais.
Et vous ben c'est ça, j'avais noté que vous partez avant... peut-être que j'ai pas... Donc, de toute façon, ce n'est pas votre occupation. Comment avez-vous choisi, vous, le Canada, en 73 déjà?
Grâce à mon oncle, encore une fois.
Oui.
Parce que là, il fallait prendre une décision. J'avais le choix entre l'Angleterre et les États-Unis. Ou le Canada.
Oui.
L'Angleterre était la destination traditionnelle, c'est là que tout le monde allait pour aller à l'université. Mais de plus en plus, c'était l'Amérique du Nord qui attirait les gens, à cause de l'influence culturelle dont vous parliez.
On est quand même au sortir des années 60, c'est un moment où l'influence nord-américaine est très forte.
Exact. Et c'était mon oncle qui était en visite à Trinidad. Et j'ai pris l'occasion de lui demander « qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire ?» Et il a tout de suite dit, non, oublie l'Angleterre, parce que c'était bien sûr avant Thatcher, c'était l'Angleterre, l'économie de l'Angleterre à l'époque. Ça n'allait pas du tout bien.
Mais 73, c'est le premier choc pétrolier.
Bon,
ça va très mal en Europe.
Et puis il a dit, les États-Unis, écoute, tu pars tout seul, à l'âge de 18 ans, sans expérience du monde. La société américaine est le genre de société qui pourrait t'avaler. Attention. Et il m'a suggéré comme compromis entre les deux, le Canada. Tout simplement. Alors, je me suis dit, pourquoi pas, le Canada.
Mais c'est une conscience importante dans votre vie. Vous dites, à 10 ans, vous prenez conscience que l'homme qui mange dans la cuisine est l'écrivain qui écrit les livres. C'est celui qui est comme une sorte de père spirituel, d'une certaine façon.
D'une certaine façon, et qui continue de l'être, même si on ne se parle pas très souvent.
Oui.
Mais je sais qu'il est toujours là. Il est toujours là pour m'offrir ses conseils lorsque j'en ai besoin.
D'accord. Alors, donc, vous arrivez à Toronto en 73?
Oui, et Toronto, parce que je voulais étudier le français.
Voyez! Un homme plein de contradictions. Non, c'est très intéressant.
C'est la vérité aussi. Hein?
Ah non, je ouais. suis sûre que ça ne peut être que la vérité.
Ouais.
Mais c'est très intéressant, justement. Je sais que vous vous inscrivez à l'Université York
oui.
pour ça. Dites-moi, comment était cette ville en 73? En plus, ça doit changer
Magnifique.
Énormément quand vous arrivez de Trinidad.
Et... Magnifique. Trinidad, ah, oui. Toronto dans les années 70, les années 80. C'est
oui.
une ville magnifique, accueillante, riche. Alors, pour moi, à l'âge de 18 ans, c'était vraiment le début d'une aventure que je me suis fait des amis rapidement. Puisque la ville, sur le plan culturel, c'était très vibrant.
Oui.
Alors, non, c'était une ville très... Après 6 mois, j'étais chez moi.
Oui.
Facilement.
Et vous étiez donc inscrit à l'Université York, vous apprenez le français.
Oui.
Vous êtes inscrit en français ou vous étiez inscrit en littérature en général ou...
Non, en langue et littérature française. Je ne voulais à tout prix, je ne voulais pas étudier la littérature anglaise. Parce que, à cause de mon expérience à l'école secondaire à Trinidad, où on avait l'approche britannique, c'est-à-dire qu'on étudiait les classiques, on lisait les classiques, et on n'avait pas le droit de réfléchir, ou de penser, ou d'avoir une opinion. C'était les enseignants qui nous disaient ce qu'il fallait dire dans nos essais. Alors, on lisait le livre et il fallait dire absolument, sans contredire l'idée que Henry James était un grand écrivain, que Jane Austen était une grande écrivaine. Mais c'était des livres qui, des fois, là, en lisant du Henry James, je m'endormais. Et j'aurais aimé explorer cela dans un essai. Pourquoi est-ce que Henry James ou certains écrivains qu'on étudiait m'endormait. Mais on n'avait pas le droit de le faire. Et bien sûr, l'approche était celle d'une autopsie. On prenait le pauvre roman et on faisait une autopsie. Et vous savez, après une autopsie, ce qui reste, c'est pas très agréable. Hein?
C'est sûr.
Alors, je me suis dit non, j'adore trop la lecture, la littérature, pour permettre aux professeurs de littérature de détruire ce que j'aime. Alors, j'ai décidé d'étudier quelque chose qui me plaisait bien. Plaisait bien la langue française, tout simplement.
Et moi qui étudiais les classiques français à Paris, ce n'était pas très différent comme
non,
type d'enseignement.
Sais.
Donc,
terrible,
ce n'était pas spécifiquement britannique, plus quelque chose de l'époque.
Oui, de l'Europe aussi, je crois.
De l'Europe,
oui.
De l'Europe, oui.
De l'Europe.
Plus européen. Oui. Et donc, vous pensez que en vous inscrivant en langue et littérature française, vous allez trouver, c'est sûr, d'abord une découverte, je suppose.
Oui, c'était une aventure, tout simplement. J'ai étudié le français parce que j'aimais la langue, tout simplement. Je n'ai jamais eu l'idée que l'université allait me former pour un emploi. Pour moi, l'université était là pour me donner l'information dont j'avais besoin personnellement. Alors,
oui.
j'ai étudié le français, j'ai étudié la littérature et la langue,
oui.
mais j'ai aussi suivi des cours en russe, des cours en littérature russe en traduction. Vous voyez, je choisissais ce qui me plaisait tout
simplement. Mais c'est des modèles littéraires qui sont énormes, évidemment.
Oui.
Ça aussi, c'est
bon, voilà.
une influence.
Oui. C'était mes passions. J'avais le droit à l'université et j'ai décidé que c'était mon droit de suivre mes passions là, à l'université, parce que j'allais être écrivain.
Mm-hmm. Ben oui, de toute façon, vous l'aviez annoncé longtemps avant, enfin 8 ans avant. Mais est-ce que déjà vous vous disiez que vous alliez être un écrivain? Ce n'est pas encore apparu, l'idée d'aller au Québec.
Aller au Québec, non, écoutez. Si
ça, c'est la fin, les débuts des années 70. Donc ça, vous avez mis 16 ans avant de penser au Québec.
Non, en effet, j'ai découvert. La raison que je suis allé à Toronto pour apprendre le français,
oui.
c'est parce que je ne savais pas que le Québec existait.
Ah! Quand vous l'avez découvert, vous avez décidé d'aller au Québec parler
anglais.
Non, pas
tout à fait. Non, pas tout à fait. Oui. Belle idée, hein? J'ai découvert le Québec dans un cours de littérature québécoise.
Ah oui.
À l'université.
Ah oui.
Voilà, tout simplement. Et si j'ai décidé à un moment donné de venir m'établir d'abord à Montréal, puis à Québec, c'est grâce à l'amour que je suis tombé amoureux d'une femme de Québec.
C'est une bonne raison.
C'est une excellente raison, je crois.
Non, mais alors ça, c'est extraordinaire. Donc, vous allez à Toronto, mais bon, Est-ce que vous auriez pu aller ailleurs? Je veux dire, est-ce que vous auriez pu aller en Colombie-Britannique? Vous auriez pu aller en Saskatchewan par rapport à la langue anglaise, je veux dire, ou non?
Oui, j'aurais pu m'établir oui. n'importe où, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause de l'Université York, l'Université de Toronto, c'était oui. un endroit, c'était la ville qui attirait les gens. Oui. Tout simplement.
Mais de quoi vivez-vous? Parce que vous vous destinez à être écrivain. Et qu'est-ce que vous faites dans ces années-là pour vivre, en fait?
Mes parents. Grâce à mes parents. Non, c'était une autre tradition que mes grands-parents avaient commencé.
Ah parce oui?
Que, oui, lorsque les enfants étaient à l'université, il ne fallait pas qu'ils travaillent.
Ah
Notre
oui.
travail, c'était nos études.
Ben oui.
Tout simplement. Et l'été, on voyageait, on lisait. Moi, c'était... ma deuxième année à l'université qu'à un moment donné, j'avais suivi. Donc, j'allais suivre un cours en littérature russe en traduction. Et je me suis dit à un moment donné, bon, je vais prendre une semaine. Je vais m'acheter beaucoup de café et je vais lire « Guerre et paix ».
Ah
ce
oui!
Ce que j'ai fait.
Ah oui!
Ah,
oui.
C'était une semaine.
Ah ben oui!
J'ai très peu dormi, j'ai bu beaucoup de café et j'ai lu Tolstoï, du début jusqu'à la fin. Belle expérience.
Mais justement, c'est une question que je me pose parce que vous avez dit que c'était une aventure extraordinaire, etc. Mais quand même, qu'est-ce qui vous attirait tant dans la langue et la littérature française, puis russe, pour décider de faire ce pas en avant? Parce que c'est quand même extraordinaire, c'est une expérience que peu d'écrivains anglophones vivent. Cette richesse que vous avez tout de suite été chercher dans l'autre, dans l'altérité, dans ce que vous ne connaissez pas, dans l'inconnu.
Besoin de découverte, curiosité, tout simplement. C'est ce qui pousse toujours les livres, les romans que j'ai que j'écris. La source de tous mes romans, c'est la curiosité.
Mais
c'était la même chose à l'époque. Et c'était différent aussi. C'était très différent de ce que j'avais vécu à Trinidad. Et tout d'un coup, vous savez, il ne faut pas oublier qu'à Trinidad, mes parents déjà voyageaient beaucoup. Moi, je ne voyageais pas avec eux, mais ils allaient souvent en Angleterre, en Europe, en Amérique du Nord. Et ils revenaient toujours avec des revues, des magazines, des possibilités où je voyais des films qu'on ne voyait jamais à Trinidad. Je voyais des livres qu'on ne voyait jamais là. Alors, je savais qu'il y avait un autre monde, une richesse ailleurs. Et j'avais besoin d'aller chercher cette richesse-là. Et c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs.
La haine de l'autre, c'est ce que vous ne supportiez pas à Trinidad. Mmh. C'est ce qui vous a fait partir de Trinidad. Est-ce que vous trouvez à Toronto l'amour de l'autre?
Personnellement, oui, mais il y avait bien sûr un autre aspect. Ce n'était pas le paradis. Hein? Mais c'est là aussi où j'ai commencé à découvrir, je crois, un autre aspect de ma voie personnelle. C'est-à-dire, à mon arrivée à Trinidad, c'est incontournable, à mon arrivée à Toronto, mmh. à l'université, quelques jours après le début de la session à l'université, j'ai rencontré au collège où je restais des gens de Trinidad. C'était 3 ou 4 personnes qui étaient venues me chercher parce qu'ils savaient que je venais d'arriver de Trinidad. Ils m'ont invité à prendre un café avec eux. On était allés à la cafétéria, on a pris un café. Et puis, c'était à ce moment-là que j'ai découvert le multiculturalisme.
Ah oui.
Et qu'ils m'ont expliqué que mon devoir en tant que Trinidadien, c'était de continuer à vivre à Toronto, comme si j'étais toujours là-bas. Parce que ces pauvres Canadiens n'avaient pas de culture. Et il fallait leur montrer comment danser. Hein? Fallait introduire le calypso, leur montrer comment boire du rhum. Et je me dis, vous êtes fous. Alors, dès le début, je me souviens, c'est un autre moment dont je me souviens très bien, très clairement. Ma réaction était, je viens de quitter Trinidad. Et vous voulez que je continue à vivre comme si j'étais toujours là? C'est un théâtre que je refuse, carrément. Alors, sur le plan personnel, j'ai eu une réaction contre le multiculturalisme, cette approche multiculturelle. Parce que c'était un moyen, il me semblait, il me semble toujours, de limiter ma liberté. Cette exploration que je voulais faire, s'il fallait que je vive comme si j'étais toujours là-bas, comment aller découvrir la littérature russe? Comment faire des amis d'origine russe, d'origine polonaise, alors, vous voyez, étudier. Mais il y avait même des gens qui étaient un petit peu choqués que j'étudiais le français et non pas l'espagnol. Parce qu'à cause de l'Amérique latine, hein, alors, c'était tellement proche, alors, il faut étudier l'espagnol pour aller faire la révolution en Amérique latine. Ça ne me disait pas grand-chose. Alors, dès le début, j'ai décidé qu'il fallait que je fasse mon propre chemin, si vous voulez. Et c'était, j'étais le seul qui allait décider ce que j'allais faire.
Mais on a compris depuis déjà quelque temps que ce qui vous intéresse, ce n'est justement pas le connu, mais l'inconnu. Donc, mais j'aimerais, bien sûr, on va parler longuement de votre... Tout à l'heure, on va parler de votre essai,
si vous
Le
voulez.
Marché aux illusions, mais c'est quand même la décennie suivante. Vous avez un premier livre que vous publiez en 1985, donc à peine 10-12 ans après être arrivé, Digging Up the Mountains.
Oui.
Ça, c'est en 85, évidemment, en anglais. Ça sera repris chez Boréal en 97, sous le titre « Arracher les montagnes ». Je vais volontairement, dans les livres dont je vais parler, donner le titre en anglais et la date de parution en anglais, parce
D'accord.
que c'est le moment où vous écrivez le livre. Alors, sa traduction en français, bien sûr, est tout à fait capitale. D'abord en France, et ensuite...
Pas pour « Arracher les montagnes ». En France, Arracher les
non,
montagnes.
Non, pas pour Arracher les montagnes, mais la première fois qu'un livre de vous est publié en français, c'est en France.
C'est en France. Oui.
Donc ça, c'est aussi des choses importantes, mais je précise ça. C'est un parti pris de ma part que de donner la date de parution du livre en anglais, parce que c'est ça le livre que vous avez écrit. D'où vous vient justement cette première idée d'Arracher les montagnes, enfin, Digging Up the Mountains, en 85, et vous êtes encore un tout jeune homme, enfin, vous avez 29, 30 ans.
Oui, lorsque le livre a été publié, j'avais commencé à écrire les nouvelles, en effet, juste à la fin de l'université, parce que je m'étais rendu compte que oui, je m'étais bien amusé à l'université, j'avais beaucoup lu, mais si...
Vous aviez appris le français?
Oui.
Oui.
Et si je voulais être écrivain, il fallait que j'écrive quelque chose.
Oui.
Alors, je me suis trouvé un emploi comme enseignant de l'anglais langue seconde.
Ah oui.
Et pendant que j'enseignais, j'ai commencé à écrire sérieusement. Et c'était une suite de nouvelles.
Vous trouvez un emploi d'anglais langue seconde à Toronto?
Oui.
Encore.
Mais il y avait beaucoup d'étrangers qui venaient, beaucoup des gens qui venaient de partout dans le monde
à
Toronto
oui.
pour apprendre l'anglais.
Bien sûr. Donc, excusez-moi. Alors,
non,
donc,
et c'est là que j'ai commencé à écrire sérieusement.
Oui, oui.
Et le résultat est Arracher les montagnes. Et là, les sources d'inspiration pour chaque nouvelle, c'est toujours très différent. Je ne peux jamais prédire. Chaque nouvelle a commencé avec un personnage.
Oui.
Tout comme aujourd'hui, avec les romans qui commencent avec un personnage qui est là, que je ne connais pas, et qui me raconte son histoire.
Mais vous retournez à l'anglais pour écrire, ça aussi. Est-ce que vous auriez pu, bon, aujourd'hui, bien sûr, encore plus, c'est une question que je me posais à votre sujet. Vous auriez pu, peut-être à cette époque-là, pas encore vous mettre à écrire en français parce que c'était récent dans votre vie.
Oui,
mais c'est quand même un choix. Vous décidez d'écrire en anglais.
Non, ce n'était pas tellement un choix parce qu'il ne faut pas oublier le contexte non plus. C'est Toronto,
oui.
Ville anglophone. Les éditeurs anglophones. Alors,
c'est quand même votre langue maternelle.
Ma langue maternelle aussi.
Oui.
Aujourd'hui, j'écris des articles, des conférences.
Oui, en français.
En français aussi. J'enseigne en français.
Pourriez-vous écrire des romans en français aujourd'hui?
Je serais capable de le faire, mais il faut que le personnage qui arrive me dise bonjour.
Ah, c'est important.
Et oui, bien sûr. Les autres personnages arrivent et me disent « good morning ». Okay. Mais si un jour, un personnage me dit « bonjour », je vais l'écrire en français. Oui, bien sûr.
Mais c'est ça, mais il pourrait vous dire « das Vidania » ou quelque chose.
C'est bel et bien possible qu'il me dise « das Vidania ».
Et au revoir. Donc ça, c'est le premier livre, c'est 1985. Quel est le contexte torontois de l'époque à la sortie de ce livre? C'est un événement. Comment c'est pris aussi dans votre famille? Parce que voici quand même l'affirmation d'une vocation de jeune écrivain dans une famille où, au moins du côté maternel, il y a une lignée littéraire et d'écrivain.
Lorsque j'ai su que l'éditeur à Toronto, Macmillan of Canada, voulait m'offrir un contrat pour ce livre, alors j'ai tout de suite appelé chez mes parents en Trinidad. Et bien sûr, ils n'étaient pas là. Ils étaient en Europe.
Ah!
Quelque part en Europe, je ne sais pas où. Mais on m'a dit qu'à un moment donné, il serait en Angleterre. Alors, j'ai appelé chez ma tante en Angleterre et je lui ai donné la bonne nouvelle. Et puis, quelques jours plus tard, le téléphone sonne. Ma mère est là. Elle m'a dit, on a eu la bonne nouvelle. On a déjà ouvert la bouteille de champagne. Ah. Belle réception. Mais ce qui est arrivé avec ce livre-là, c'est que... Le livre était publié, devait être publié environ 6 mois plus tard. Mm-hmm. Et quelques semaines plus tard, après le retour à Trinidad, ma mère est décédée très, très subitement d'un anévrisme cérébral. Et elle n'avait jamais lu les nouvelles, parce que mon rêve, c'était d'écrire les nouvelles, d'écrire les livres, faire publier, et de lui donner le livre moi-même. Et alors, je n'ai jamais eu l'occasion de lui donner, elle n'a jamais eu l'occasion de le lire. Ça, c'était un choc immense. Elle était jeune, elle n'avait que 50 ans. Oui. L'autre événement, c'est bizarre, hein, parce qu'un premier livre, c'était magnifique, parce que ce n'était pas seulement au Canada que le livre a trouvé un éditeur, mais aussi en Angleterre, aux États-Unis.
Bien sûr.
Et lorsque je suis allé à Trinidad pour les funérailles de ma mère, j'ai rencontré mon autre oncle, l'autre Naipaul, Shiva Naipaul, le plus jeune,
oui.
Qui était aussi
oui.
Journaliste et romancier, etc., très connu. Et on s'est entendu à merveille. C'était un homme d'un sens de l'humour magnifique. Et il retournait à Londres, il habitait à Londres, et il savait que j'allais être à Londres 6 mois plus tard pour la publication en Angleterre. Et alors, on avait hâte de se voir. 2 mois plus tard, le téléphone sonne et mon père m'annonce le décès de mon oncle, Shiva. Alors, il y a deux, lorsque je pense à ce premier livre, il y a ces deux morts qui me reviennent toujours à l'esprit.
C'est comme une sorte de rituel de passage. D'autant que ça venait vraiment par cette lignée-là, en fait.
Oui. Oui, bizarre. Hein?
À partir de 1985, votre parcours et votre cheminement littéraire est ininterrompu et d'une extrême richesse. 88, 90, 92, c'est vraiment un cheminement. Et la littérature, c'est du cheminement personnel, évidemment, intérieur et oui. Aussi... vous avez tout de suite évoqué le fait que quand on publie un livre à Toronto, il est à New York, il est à Londres. C'est très important
oui.
Par rapport à son audience, mais pas seulement par rapport à son audience. Ça signifie quelque chose qui n'existe pas dans le monde de la littérature francophone, qui est le fait de traiter un écrivain qui publie à Toronto sur le même palier
oui.
Que... celui qui publie à New York ou à Londres, ce qui n'est pas du tout le cas d'un écrivain qui publie à Paris ou à Montréal ou encore moins à Dakar.
Oui, non, je le sais.
Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Il y a, dans le monde francophone, une attitude... Il est difficile de trouver le mot « juste ». Et je crois que cela est en train de changer. Mais une attitude envers la littérature, envers l'écriture, envers l'auteur,
oui.
Qui est jusqu'à un certain point un petit peu colonialiste. C'est-à-dire Paris se considère comme étant toujours le centre du monde littéraire francophone. Londres ne l'est plus. New York ne l'est plus. Il y a plusieurs centres de littérature anglophone dans le monde.
Mm-hmm.
Paris, et même parmi certains écrivains dans la communauté montréalaise.
Ah oui.
Paris est toujours incontournable. Hein? On est vraiment un écrivain lorsqu'on est publié à Paris, par un éditeur parisien. Et ça m'étonne toujours. Ça m'étonne toujours. Je me souviens de la première fois que j'ai rencontré mon premier éditeur français à Paris pour la publication
Phoebus.
Pour la publication de Retour à Casa Quemada.
Oui.
Je discutais avec l'éditeur, Jean-Pierre Zicre. Et je lui ai demandé, Jean-Pierre, expliquez-moi pourquoi moi et tous les écrivains anglophones que je connais, que ce soit ici, au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, chacun a un agent littéraire
oui.
Qui le représente, qui vend ses livres, qui lit les contrats, vérifie tout. Mais les francophones, les auteurs francophones n'ont pas de...
C'est mal vu.
C'est très mal vu. Mmh. Il m'a dit, mais vous savez, Nigel, mon cher Nigel, vous savez que nous, en France, nous aimons avoir une relation personnelle avec nos auteurs. L'agent, il est toujours entre l'éditeur et l'auteur. Et cela, alors, Jean-Pierre, est-ce que cela veut dire que vous et moi, on ne peut pas avoir une relation personnelle? Non, non, non. Et effectivement, on a eu une très belle relation personnelle. L'agent, le rôle de l'agent, en effet...
A créé la relation.
Oui, jusqu'à un certain point, voilà. Mais cette idée, même aujourd'hui,
oui.
L'agent littéraire... n'existe presque pas, il existe à peine.
Non, mais en plus, on pense qu'il ne faut pas parler d'argent.
Oui, il ne faut pas parler, c'est la culture. Oui, c'est la culture. Les auteurs, ils doivent Manger quoi? Du papier?
De l'air.
Boire de l'encre?
Oui. Non, mais c'est une question qui est tragique un peu, enfin, qui s'améliore pas beaucoup. Ça pose la question de la francophonie, n'a pas d'équivalent dans le monde du Commonwealth, parce que c'est un tout autre monde. J'en parle avec vous parce que vous êtes vraiment au cœur de cela et que vous avez dit, vous avez évoqué le fait que vous étiez vous-même tellement concerné par l'Empire britannique, puis par le Commonwealth en tant que tel.
Oui, et on se rend compte, je crois que le Commonwealth n'a pas beaucoup d'importance aujourd'hui.
Non.
Ah, tout simplement. C'est comme une petite famille où les gens ont un certain passé ensemble, où on se voit une fois par année à Noël.
Non? Oui.
C'est une réunion familiale à l'occasion, où on rencontre les l'oncle un peu bizarre. Mais l'importance du Commonwealth, c'est vraiment ça.
C'est ça, mais il y a quelque chose qui n'est pas mais qui en même temps n'est pas nuisible.
Non, pas nuisible, mais vous savez, à la dernière réunion du Commonwealth, ils ont décidé que le Pakistan ne ferait pas... Qu'est-ce que ça a changé? Absolument rien.
C'est sûr. Il y a autre chose, autre question, parce que vous aviez choisi la littérature française, c'est pourquoi je vous pose ces questions. Il y a l'Académie française, il n'y a pas d'Académie anglaise, alors ça crée un rapport...
Je comprends mal le besoin de l'Académie française. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un conseil qui va dicter les lois? Oui, même aujourd'hui, franchement. Et pour un prof d'université, il crée des problèmes maintenant avec l'orthographe, où tout d'un coup, les accents si complexes disparaissent.
Et on écrit
à l'écran. Et ce n'est plus une faute.
Ah oui.
Alors, le conflit que ça crée avec les étudiants lorsqu'on corrige les textes. Là.
Moi, j'ai dit à mes fils qu'éléphant s'écrivait toujours PH.
PH.
J'ai dit que éléphant s'écrivait toujours PH et c'est PH. Tout. Parce que maintenant, on a le droit de l'écrire avec un F.
Oui.
Non, mais c'est important, effectivement, parce qu'aujourd'hui, en plus, vous l'enseignez. Vous n'avez pas fait que de vouloir apprendre la langue et la littérature. Aujourd'hui, vous l'enseignez.
Oui, je l'enseigne. Mais ça ne faisait pas partie de mes plans. J'enseigne à l'Université Laval parce que l'université est venue me chercher.
Oui.
Et j'étais prêt pour ça. Je faisais d'autres choses. Je faisais beaucoup de télévision. J'animais deux émissions de télévision à Toronto. J'acceptais toujours les projets qu'on m'offrait, les projets qui m'intéressaient. Et puis, un jour, l'enseignement était là et j'ai décidé de l'essayer. Je l'ai adoré.
On va arriver à Montréal bientôt. on doit le faire parce qu'on pourrait parler des heures, vous et moi, mais le temps file. Alors, c'est ça, ces livres, Casual Brutality en 1988, qui est donc traduit Retour à Casa Quemada, vous l'avez dit, en France, chez Phoebus en 92. On the Eve of Uncertain Tomorrows, à l'aube de lendemain précaire, 90 en anglais, 94 en français. Aussi aux éditions Phoebus, « The Innocence of Age » et non pas « The Age of Innocence ». 92 en anglais, 92 aussi en français chez Phoebus. Et puis, on arrive à 94, qui est le seul essai que vous ayez écrit. La raison, on pourrait détailler tous ces livres-là, mais on n'a pas le temps. C'est simplement un cheminement de l'un à l'autre. Mais je voulais m'arrêter sur « Selling Illusions », donc le marché aux illusions qui paraît chez Penguin Books en 94 et aux éditions du Boréal en 95, et c'est comme si c'était de grande actualité, parce que bon, c'est toujours de grande actualité, je dirais. Simplement, vous l'avez écrit, vous, à cette époque-là, et c'est votre seul essai, parce que vous êtes un romancier avant tout, même si vous écrivez des articles, etc. Vous l'avez-vous écrit comme critique du multiculturalisme à partir de l'observation de la société torontoise. Donc, ce qui est présenté encore aujourd'hui, et qu'il était déjà, mais qu'il est aujourd'hui encore, j'ai regardé encore un reportage récemment sur TV5 là-dessus, comme un modèle, vous l'avez déconstruit. Reprochiez vraiment à cette... Parce que vous avez même dit dans une entrevue que vous aviez vécu dans une société raciste, mais que vous étiez arrivé dans une société pire qui était la société multiculturaliste. Alors...
Oui. Je dirais que, en tant que romancier, ce qui m'importe le plus, c'est l'individu. C'est l'être humain.
Oui.
Okay? Ce n'est pas l'humanité qui m'intéresse. C'est l'être humain. Le multiculturalisme voulait m'imposer du théâtre. Le multiculturalisme voulait empêcher ce qui me semblait être une évolution naturelle. C'est-à-dire, à mon arrivée à Toronto en 1973, déjà j'avais changé. 5 ans plus tard, j'étais une autre personne. 5 ans plus tard, j'étais encore une autre personne. Le multiculturalisme, tel que exprimé, tel que presque à Toronto à l'époque, surtout imposé, voulait empêcher tout cela, voulait que je joue ce rôle ethnique. Et la personne que je suis, le romancier que je suis, a rejeté tout cela. Maintenant, leur livre, je n'avais pas l'intention d'écrire le livre. J'étais convaincu que le Canada avait besoin d'un débat social pour examiner l'effet du multiculturalisme sur le plan social, plan individuel, plan politique. Mais on ne l'avait jamais examiné. C'était toujours « on est bien, hein? On est agréable, on aime tout le monde, on est ouvert à tout. » Ah, pas tout à fait à tout. On aime les danses, on aime la cuisine, on aime les costumes. Mais il y a des idées, parfois, qui nous rendent mal à l'aise. Mais on va faire semblant, quand même. Alors, le romancier que j'étais, la personne que j'étais, pensait, bon, on avait besoin d'un débat. À l'époque, j'étais chroniqueur pour le Toronto Star et j'avais écrit quelques chroniques où j'examinais la question. De façon très personnelle, parce que, comme vous avez dit dans votre introduction, je ne me suis jamais considéré comme étant un intellectuel. Je suis une personne qui est romancier. Alors, c'était mon approche. Et grâce à ces chroniques, Penguin Books m'ont fait une offre. Ils m'ont demandé, est-ce que ça vous tente d'écrire un essai sur la question? Et j'ai dit non. Parce qu'à l'époque, j'écrivais un autre livre. C'est la fiction qui m'a toujours attiré.
Oui.
Et puis, bien sûr, Penguin Books. Ils ont rappelé mon agent. Ils ont dit, bon, on lui offre tant d'argent. J'ai dit oui.
Comme quoi, un agent?
Alors, je me suis amusé en l'écrivant. Je voulais que ce soit un livre très personnel. Mm-hmm. Je voulais offrir une vision personnelle de la chose, de comment l'individu le vit, comment moi je l'ai vécu, et les gens que je connaissais l'avaient vécu, et en faisant un peu de recherche également, comment d'autres gens l'avaient vécu. Juste pour remettre en question cette politique qui s'était imposée, qu'on avait acceptée sans questionner. Et le résultat...
C'est plus que ça, qui est dans la charte.
Qui est partout. Qui était partout.
Oui.
Et bien sûr, la réaction était féroce.
Ce débat a eu lieu, évidemment, d'abord du côté anglophone, ensuite ici,
il n'y a
parce
jamais
que le
eu
livre
de débat.
Est paru.
Du côté anglophone, il n'y a jamais eu de débat. Une des raisons que Le marché des illusions est le seul essai que j'ai écrit, le seul essai que j'ai l'intention d'écrire, c'est que j'ai détesté l'expérience que j'ai eue à cause de ce livre. Je vous explique. Lorsque le livre a été publié, le jour de la publication de Globe and Mail, ils ont publié une critique du livre, toute la page. Et là, on découvrait que Neil Bissoundath était dégueulasse, tout simplement. Le livre, c'était une perte de temps. Absolument rien. Mais c'était une critique qui voulait écraser pas seulement le livre, mais l'auteur aussi. La semaine suivante, j'ai la liste des best-sellers, c'était numéro 1.
Bonne
et c'est
tactique.
Là que tout a commencé. Et bien sûr, Penguin Books, ils m'ont envoyé sur une tournée de promotion à travers le pays.
Mais oui, vous avez arrêté d'écrire 2 ans.
Oui. Et ce qui était difficile, c'est que je m'attendais, je l'ai fait volontiers, parce que je me suis dit, bon, c'est le déclenchement du débat dont on a besoin.
Oh oui,
et je
allons-y.
Vais y participer.
Oui.
Mais ce qui était typique était la réaction de certaines personnes. Non, il y avait plusieurs aspects. Hein. Il y avait, lorsque je me trouvais souvent, disons à Calgary, je me trouvais devant 500 personnes qui étaient là pour écouter une conférence que je faisais. Et souvent, la majorité de ces gens-là étaient des immigrants ou des néo-canadiens qui n'étaient pas là pour critiquer, mais pour acheter le livre, pour me demander de décaisser le livre, parce que j'avais écrit dans le livre tout simplement ce qu'ils pensaient.
Oui.
Mais que les gens n'osaient pas dire.
Oui,
hein,
oui.
Tout simplement. Alors, l'accueil du livre, là, c'était magnifique. Mais il y avait d'autres expériences plus pénibles. Vous savez que la ministre Sheila Feinstein de Montréal, qui était ministre responsable du multiculturalisme à l'époque, m'avait critiqué, pas mes idées, mais moi, dans un discours, et puis dans une entrevue à la télé. Alors, ce n'était pas mes idées. Personne ne voulait discuter des idées. Ce qui était typique, j'étais à Edmonton, je crois, et il fallait que je fasse une émission de télé le matin, 8 heures le matin. Alors, j'étais là dans le studio en direct et ils avaient invité un journaliste de Toronto d'origine pakistanaise, je crois, sans me le dire. Alors, tout d'un coup, je me trouve là. Alors, ils m'ont demandé d'expliquer, « Monsieur Bissonnette, vous avez 30 secondes pour expliquer vos idées. » Bon, merci. Dans 30 secondes, j'explique ce que je peux expliquer, ce que j'avais dit dans le livre. Et puis, ils demandent au journaliste, « Qu'est-ce que vous pensez des idées de Monsieur Bissonnette? » Et lui, sa réponse était, et ça, c'est typique, c'est ce que je trouvais partout. Il a dit, mais vous savez, Bisunda, c'est ce que nous appelons une noix de coco. Brun à l'extérieur, blanc à l'intérieur. C'était à ce niveau-là que le débat est resté pour moi. Et après deux ans, plus de deux ans que ça, je me suis dit, non, ça finit là. C'est une des raisons que j'en parle pas. J'en parle plus. La commission, Bouchard-Taylor et tout le reste, j'ai été inondée.
C'est ça, je ne pouvais pas ne pas vous poser la question, parce que voici que le débat a lieu ici, avec tout ce qu'on a vu, et je me suis dit, voilà quelqu'un qui devrait prendre position sur ce débat. Alors, qu'en pense-t-il? Parce que le débat a eu lieu au Québec quand même, plus
ça m'ennuie.
Quand le marché des illusions est sorti ici.
Oui.
Évidemment, c'était en 95. Nous voici plus de dix ans plus tard, et la question se pose plus que jamais. Ça vous ennuie de recommencer à en parler?
Oui, parce que j'ai l'impression que j'ai déjà tout écrit, tout dit ce que j'ai à dire. Et j'ai d'autres choses à explorer dans ma vie.
Oui. Mais est-ce que ça veut dire que ce que vous avez observé de la société torontoise, finalement, vous dites, je l'ai déjà dit, finalement, aujourd'hui, par rapport à... Parce que la commission Bouchard-Taylor s'intéresse à la société québécoise. Est-ce que ça veut dire pour vous que c'est pareil?
Non, pas du tout. C'est que je suis très content qu'il y ait ce débat. Je crois qu'il est nécessaire.
Oui.
Ça ne me tente pas de participer.
Oui,
parce que, écoutez, j'ai passé ces 3-4 ans de ma vie, il y a très longtemps, de parler de ça. Depuis, j'ai écrit plusieurs romans. Je viens de finir un autre roman. Il y a les personnages du suivant qui sont là. Et je ne veux pas que le multiculturalisme et ce débat définissent ma vie et ma culture et ma carrière littéraire.
Oui.
Alors, j'ai déjà tout dit. Je pense que si les gens veulent savoir ce que je pense de tout cela, ils peuvent facilement lire Le marché aux illusions.
Oui.
Parce que les idées sont là. La vision de la chose est là. Mais ça ne me tente pas de revenir sur ces questions-là.
Il y a une seule question que moi, je voulais vous poser qui m'intéressait dans tout ce débat. C'est que, parce que c'est aussi une observation personnelle, mais même au Québec, il y a ce mythe de l'écrivain migrant qui est quelqu'un qui vient ici et qui est censé parler de son pays d'origine.
Oui.
Et il y en a beaucoup, mais c'est une étiquette,
ça
c'est
arrive
une drôle
partout.
D'étiquette.
Mais vous savez, ça arrive partout. Hein. Lorsque j'ai publié « Le marché « Digging up the mountains »,
entre le
français et l'anglais. «
Arracher
les montagnes »,« Digging up the mountains », puis « Retour à Casa Quemada ». L'étiquette qu'on me donnait dans la presse anglophone, c'était « écrivain antillais »,« écrivain trinidadien », »,« écrivain » du tiers-monde, écrivain de couleur. Tout ça n'avait rien à voir avec les nouvelles qu'on trouvait là.
Mais finalement,
noix de coco. Mais s'ils avaient pris la peine de lire le livre, ils auraient découvert, oui, des nouvelles qui se passent aux Antilles, à Toronto, au Japon, en Espagne, en Amérique centrale. Alors, ces étiquettes sont très faciles pour les autres.
Oui.
C'est une façon de limiter sa vision Et j'ai toujours refusé ces étiquettes-là. L'écrivain migrant, qu'est-ce que ça veut dire?
D'abord, il n'y a pas d'écriture sans migration. Il n'y a pas d'écrivain qui ne soit pas migrant en tant
voilà,
que tel.
Voilà, l'imagination voyage.
Les littératures du monde entier sont constituées d'écrivains venus
oui.
d'ailleurs.
Oui, mon prochain livre va porter sur l'Espagne.
Ah, vous revenez à l'Espagne? Vous revenez à l'Espagne?
J'adore l'Espagne. J'adore l'Espagne. C'est un pays magnifique. Qui m'obsède depuis longtemps. Et vous savez, ça n'a rien à voir avec les Antilles, avec l'immigration, avec
non,
tout
mais
cela.
Justement, je veux parler de vos livres, au moins les derniers qui sont parus. D'abord, vous m'avez dit que vous ne saviez pas que le Québec existe. Finalement, vous avez appris que non seulement le Québec existe, mais que les Québécoises existent. Et vous partez enseigner donc la littérature, la création, en fait, la création littéraire à l'Université Laval, après avoir vécu 7 ans à Montréal.
En effet, nous, on est allé à Québec parce que j'étais tombé amoureux également de la ville de Québec.
Oui.
À l'époque, je faisais toujours la télévision à Toronto. L'emploi à l'Université Laval est venu plus tard, bien après
99.
Oui. Ah bon, OK.
Je vous le dis.
C'était peu grand. Hein?
Mais non, je fais juste mon travail. Vous l'avez fait vous-même. Alors, vous savez comment. Non. Simplement, je me souviens, je vous avais rencontré aussi au moment d'un baume pour le cœur. C'était en 2002. Mais il y a eu un livre avant qui était très important, The Worlds Within Her.
Oui.
Tous ces mondes en elle, 99, qui vous a valu d'être finaliste au prix du gouverneur général. Et c'est un livre, effectivement, où il y a deux personnages, une femme, un homme, et elle semble avoir pris, puis lui en plus il s'appelle H, comme la cendre, elle semble avoir pris tous les côtés, je dirais, optimistes et positifs de la nature humaine, et lui, l'inverse un peu. Qu'est-ce que vous vouliez dire à travers ce personnage-là?
Moi,
ça, c'est une femme qui est venue vous voir
oui.
pour vous dire bonjour, pour vous dire hello.
Oui, oui. Moi, je ne voulais absolument rien dire. Non, elle est arrivée, Yasmine, elle s'appelle.
Oui.
Elle est arrivée dans cette première scène où on la voit, elle fait ses bagages. Et tout ce que j'ai su, j'étais en train de faire la vaisselle. Ce sont des scènes qui arrivent là, à des moments très... Des fois, lorsque je prends une douche, tout d'un coup, cette scène-là, où je lave la vaisselle, de l'eau. Mais je me souviens de ce moment-là, je me souviens de ces moments où toutes ces premières scènes des romans sont imposées. Et Yasmine était là, avec Jim, son mari, elle faisait ses bagages. Je savais qu'elle partait, elle allait quelque part, je ne savais pas où. Et Jim lui demandait, tu es sûr que tu ne veux pas que je vienne avec toi? Non, il faut que j'y aille toute seule. Bon, c'était la première scène. J'ai écrit la scène, sans savoir où elle s'en allait, mais j'étais prête à la suivre. Et je l'ai suivie jusqu'au point final. Et puis, à un moment donné, c'est sa mère qui s'est imposée. L'autre scène qui suivait, c'était tout d'un coup une autre voix féminine qui me parlait directement. Et c'était, je me suis rendu compte, en écrivant la scène, en tout simplement écrivant les mots qui étaient là, que c'était la mère de Yasmine qui racontait sa vie. Et c'est de cette façon-là que j'ai écrit le roman. Je l'ai découvert en écrivant. De scène en scène, je ne savais jamais lorsque j'allais...
Et quand H est arrivé...
H était un jeune homme à Lille, parce que j'ai su que Yasmine allait retourner à l'île de sa mère pour laisser les cendres de sa mère qui était décédée.
Mm.
Alors là, il y avait déjà une femme morte qui s'exprimait dans le roman. Mais H est quelqu'un que Yasmine rencontre à Lille.
Mm.
Alors... Si je me souviens bien, parce que ça fait longtemps.
Je vais vous donner la date, 98. Donc vous savez, lorsque un roman est terminé,
je vais rapidement au prochain.
Oui. Vous recommencez aussitôt?
Oui, très tôt, très rapidement.
Qu'est-ce qui vous fait passer d'un roman à l'autre?
Les personnages sont là.
Toujours, oui.
Les personnages sont là.
S'il n'y a pas de personnage qui se présente dans votre cuisine ou dans votre douche pendant que vous prenez votre douche pendant 3 ans, alors il ne se passe rien.
Non, parce que j'ai d'autres projets.
Parce qu'un personnage, on appelle un autre, même si on ne sait pas comment ça se fait qu'il vient.
Oui, oui, mais j'ai été chanceux jusqu'ici. Les personnages sont toujours venus. Et lorsque je finis un livre et que je l'envoie à mon agent, les personnages de l'autre sont déjà là. Et
si je n'écris pas, l'autre chose, c'est que j'ai besoin d'écrire. J'ai besoin de me glisser dans ce monde, d'explorer ces mondes, de découvrir ces personnages. Et si je n'écris pas, je deviens insupportable.
Oui.
Oui, absolument insupportable. Pour moi-même, pour ma famille, pour mes étudiants, pour mes collègues. C'est terrible.
Justement, comment est organisée votre vie d'écrivain? Je veux dire, à quel moment a lieu ce rendez-vous avec la page blanche ou l'écran d'ordinateur, peu importe? C'est un rendez-vous et est-ce qu'il a lieu tous les jours? Est-ce qu'il a lieu à la même heure? Est-ce qu'il a lieu quand ça vient? Comment ça se passe pour vous?
Non, pour l'inspiration, je crois qu'il ne faut pas tout simplement attendre l'inspiration. Des fois, ça arrive, mais on peut aussi provoquer l'inspiration. Mmh. Alors, pour moi, écrire des romans, c'est mon travail.
Oui.
Hein? Lorsque je ne suis pas à l'université, et je ne passe pas tout mon temps à l'université, je consacre 2 jours par semaine de très longues journées à mon travail universitaire, donner mes cours, rencontrer mes étudiants, faire mes corrections, etc. Le reste de la semaine, je ferme la porte sur l'université.
Oui.
Et je passe la journée. Devant l'ordinateur. Bon, pas devant l'ordinateur, mais avec mes personnages. Pour moi, c'est un travail. Lorsque ma fille part pour l'école et ma conjointe part pour le bureau, j'allume l'ordinateur et je suis là avec les personnages. Je passe la journée avec les personnages. Mmh. Je me lève, je me promène. J'essaie toujours d'écrire environ... Si j'ai réussi à écrire 3 pages par jour,
oui.
Je suis content.
Oui.
Ça n'arrive pas toujours parce que j'écris assez lentement. Mais il y a des journées où j'ai réussi tout simplement à en écrire 8 et d'autres journées où une demi-page, c'est tout. Où le personnage est plus réticent. Peut-être que je suis trop fatigué pour être disponible, parce que ça, c'est un des défis aussi, de se laisser disponible au personnage pour qu'ils aient la liberté de s'exprimer,
de t'inviter. Oui, il faut être un filtre.
Oui,
aussi.
Voilà.
C'est une façon d'être.
Voilà.
Est-ce que vous écrivez tout le temps, c'est-à-dire même quand vous vous promenez, même quand vous faites la vaisselle, même quand vous mangez, parce qu'on est habité par le personnage.
Non, si j'ai passé la journée devant l'ordinateur, à la fin de la journée, je suis épuisé, physiquement épuisé. Oui. J'ai besoin de partir, d'aller faire quelque chose de physique.
Bye-bye,
je m'entraîne le matin, chaque matin, mais il faut que je sorte, que je prenne de l'air.
Oui,
alors,
oui.
C'est ce que je fais. Et lorsque je fais, c'est lorsque je marche, tout simplement, je refuse de penser. J'essaie d'avoir la tête vide.
Oui.
Et c'est souvent à ces moments-là que les personnages, d'autres personnages ou d'autres scènes vont s'imposer.
Dites-moi, quel rapport y a-t-il entre enseigner la création littéraire et être écrivain? Est-ce que l'un influence l'autre? Est-ce que stimule l'autre ou pas du tout? Quel rapport y a-t-il pour vous? Parce qu'il est différent pour chaque personne.
Je crois que ce n'est qu'un romancier ou un écrivain, un romancier ou nouvelliste qui peut vraiment enseigner la création littéraire.
Oui.
On peut avoir toutes les théories du monde, les théories ne donnent absolument rien. Mm. Alors, dans tous mes cours...
C'est l'expérience.
C'est l'expérience.
Oui, oui, oui.
C'est l'expérience. C'est toute l'expérience que j'ai acquise grâce aux livres que j'ai écrits.
Oui.
Dont je peux me servir pour créer des cours, pour aider les étudiants à découvrir et à développer le talent qu'ils ont, pour leur montrer les techniques de base de l'écriture. Comment écrire une belle phrase? Qu'est-ce que c'est le mot juste?
Oui.
Je passe 1h30 dans un cours de base pour discuter de l'idée du mot juste.
Oui.
Alors, j'utilise tout cela pour leur montrer et aussi pour montrer aux étudiants qu'ils doivent apprendre à se faire confiance.
Oui.
Hein? Il y a toujours une tendance, ils pensent toujours, bien sûr, qu'il faut tout planifier. Alors, il faut, avant de commencer à écrire, planifier le livre de A à Z.
Et vous avez des personnages dans votre douche.
Écoutez, si j'ai planifié un roman, pourquoi l'écrire? Je connais l'histoire.
C'est sûr.
Ça ne me donne absolument rien. Alors, j'essaie dans les cours de leur montrer. Certains de mes étudiants ont déjà publié des nouvelles et des premiers romans également. Mais d'autres, la majorité des étudiants ne vont pas nécessairement devenir écrivains, mais ils vont se servir, ils vont apprendre à utiliser le langage, ils vont reconnaître, vont lire autrement. Ils deviennent souvent journalistes ou d'autres professions où ils ont besoin d'une connaissance approfondie, si vous voulez, de la langue. Et c'est dans les cours de création qu'on apprend. Alors, c'est la raison que dans mes cours, il faut que ce soit pratique.
Oui.
Il n'y a pas de théorie. Les théories littéraires sont inutiles, absolument inutiles. Ça ne donne absolument rien. C'est beau pour étudier ce qui existe déjà.
Et ils apprennent à lire aussi mieux les œuvres, parce que c'est ça qui arrive.
Ils voient autrement.
Oui.
C'est parce que beaucoup de nos étudiants font aussi leurs études littéraires. Et c'est le commentaire qui revient le plus souvent, qu'après avoir suivi les cours de création, ils voient les romans qu'ils étudient autrement.
Autrement, oui. Oui. Je vous posais cette question aussi parce que votre dernier roman paru, La clameur des ténèbres, en français, en 2006, il était paru en anglais en 2005, pose cette question aussi de l'enseignement. Bon, ça se passe dans une île imaginaire au large de l'Inde. On peut imaginer peut-être que c'est le Sri Lanka peut-être, mais en tout cas, c'est l'histoire d'un professeur, d'un enseignant. Et ça pose cette question-là. Je sais que vous allez me dire que vous ne vous posez pas la question au départ, mais il y a quand même la notion de la transmission qui est beaucoup dans ce livre-là. Alors que le livre précédent, Doing the Heart Good, un baume pour le cœur, comme je l'ai dit, en 2002, lui était le seul qui se passait à Montréal, alors lui.
Oui.
Donc, parlez-moi de ces deux livres-là. Ce sont vos deux derniers romans parus.
Qu'est-ce que je peux vous dire?
Un baume pour le cœur, c'était aussi... Tout le monde a dit, ah, enfin, il écrit un roman québécois.
Oui. C'était comme tous les romans, ce personnage qui s'est imposé. Je peux identifier la source, je crois, du personnage. C'est quelqu'un, un vieil homme, parce que j'habitais, lorsque j'étais ici, j'habitais à NDG.
Oui, oui.
Et un soir, la maison en face...
A brûlé. Oui,
voilà.
Oui.
Et j'ai vu, on s'est réveillé à cause des flammes, des bruits,
tout ça le reste. Ça commence comme ça, le livre, d'ailleurs.
Oui, et j'ai vu le vieil homme qui habitait là, qui sortait. Il était entouré de flammes. Et lui, il est resté, je ne le connaissais pas, mais l'image de cet homme est restée avec moi.
Oui.
Et j'ai l'impression que lui était l'inspiration de Mackenzie, le personnage principal d'Un baume pour le cœur. D'où est venu le reste, je ne sais pas. Mais le personnage était là et il a inventé sa vie, il a inventé sa famille, ses amis, tout ce qu'il voulait
raconter. Il a un voisin francophone, là c'est vraiment toute la cohabitation
voilà,
anglophone-francophone
c'est ce que c'était
à Montréal.
À NDG à l'époque. Alors, il m'a décrit sa vie dans ce roman-là, tout simplement. Moi, je ne voulais, j'avais pas de message. Hein. Je déteste les romans qui veulent passer un message.
De toute façon, le message est fait par le lecteur, pas par les.
Par le lecteur et par le personnage également, je crois.
La clameur des ténèbres, là, vous êtes parti effectivement loin. Plus près de... Est-ce que c'est parce que vous êtes inspiré de... Vous n'êtes pas retourné en Inde, vous m'avez dit vous
J'ai jamais été là, non. Non, j'ai jamais été dans cette région.
Et comment vous faites là? Vous faites des recherches sur le lieu? Parce que
non.
Vous avez...
Non, lorsque Arun, le personnage principal, est arrivé, il est arrivé avec tout son bagage, que ce soit son pays, sa famille, sa profession, ses désirs, ses décisions. Il est arrivé avec tout. Et je voyais autour de lui ce pays. Je n'ai jamais été au Sri Lanka. On peut dire... Écoutez, je crois que le pays a été influencé par le Sri Lanka parce que j'ai dit que la source principale de tous mes romans, c'est ma curiosité. Et depuis mon adolescence, j'ai toujours été fasciné par le conflit humain, la guerre, la Deuxième Guerre mondiale me fascinait. Le terrorisme me fascine. Bien sûr, ce qu'on vit aujourd'hui, ça me fascine. Et en tant que romancier, j'essaie toujours de percer le mystère d'un terroriste. Comment est-ce que ça marche? Qu'est-ce que c'est même de vivre dans une société qui est déchirée par une guerre civile? Est-ce qu'on sait ce qui se passe? Non, ça, je le sais. Mais qu'est-ce que c'est de vivre comme un individu avec des valeurs au centre de tout cela, pris dans une telle situation? Et je pense que j'ai beaucoup lu et parmi les lectures, il y a des articles, etc., sur les Tigers au Sri Lanka.
Hein?
Et j'ai l'impression que lorsque Arun est arrivé avec toute cette information que j'avais lue pour un intérêt personnel et que l'imagination avait pris toute cette information-là et avait créé ce pays. Alors, vous voyez que Arun ne m'a jamais dit le nom de son pays.
Non, ça, c'est vrai.
Oui.
Haroun, c'est le personnage principal.
Le personnage principal.
Et lui, c'est un enseignant. On dirait qu'il essaye, justement, dans tout ce brasier, encore du feu. Mm-hmm. Beaucoup de feu dans ce livre, oui. Où les gens et puis s'entretuent. Et lui, il enseigne.
Oui, il est un petit peu naïf, je crois. Il croit qu'il peut faire du bien pour ces jeunes dans son pays déchiré par une guerre civile, par les insurgés dans le sud et le conflit entre l'armée. Mais il pense qu'il peut aller et sans être touché par ce qui l'entoure.
Non, mais ça se finit mal.
Ça finit toujours mal. Est-ce que ça finit mal? Ah. Je ne sais pas.
On ne va pas dire la fin.
On ne va pas dire la fin. Mais voilà ce que c'est une question que je me pose.
Oui, mais justement, c'est ma question à moi, c'est parce que je sais pourquoi je pose la question. Non, justement, est-ce que vous suivez le livre jusqu'au bout ou est-ce qu'à un moment donné, avant la fin du livre, parce que c'est toujours un moment difficile, la fin d'un livre, comment il va finir, qu'est-ce qu'on va faire?
Oui, j'ai aucune idée, mais je fais confiance au personnage, je sais qu'il va me le dire.
Oui, oui.
Et lorsque la fin s'approche, je le ressens, presque physiquement.
Oui, oui,
sais que la fin s'approche, je ne sais pas ce que ça va être.
Et puis, il faut le quitter à ce moment-là, c'est difficile.
Oui, il m'impose un point final.
Oui.
Il m'impose le point final. Je sais que, oui, c'est la fin du roman.
Mais vous le quittez physiquement. Je veux dire, est-ce que vous avez un deuil, ce fameux deuil de la fin de l'écriture ou non?
Non.
Vous embarquez avec un autre personnage.
Je suis très content qu'il a accepté de passer... Il a accepté de passer tout ce temps avec moi.
Oui. Hein?
Il a accepté de m'inviter, de partager avec moi tous ces détails intimes de sa vie. Et c'est ce qui me plaît. Et je suis très satisfait de la relation que j'ai eue avec le personnage. Et bien sûr, il y a les autres qui m'attendent.
Et moi, je suis très satisfaite que vous ayez partagé les détails intimes de votre vie avec nous et de passer tout ce temps avec nous.
Ça fait plaisir.
On pourrait continuer à parler très longtemps, vous et moi, avec grand plaisir. Mais je voudrais surtout donner la parole à notre public maintenant. Et en fait, on a fait le tour de vos romans publiés jusqu'à présent, même si je sais qu'il y en a, comme vous l'avez dit, un autre chez l'agent.
Oui.
Et un autre dans l'ordinateur.
Oui, qui commence.
Qui commence. Alors, je vous en prie, dirigez-vous vers les micros de chaque côté de la salle.
Je vais couper la glace, comme on dit.
Il le faut.
Merci beaucoup pour cet entretien d'une grande intimité qui nous a permis effectivement de suivre votre trajectoire. Que j'avais lu comme ça au hasard de revues, de magazines, mais pas vraiment vos livres. Et je vais respecter, M. Bissondat, votre désir de ne pas parler de ce débat, même si je dois préciser que c'est un petit peu dommage, parce que ce serait intéressant d'avoir votre vision, vous qui l'avez déjà vécu quelques années déjà précédemment, dans une autre province, qui a choisi, dit-on, une façon différente de le vivre. Mais je vais accepter. Il y a peut-être juste une petite précision, peut-être sur le choix qui est particulier à votre vie et qui peut-être peut expliquer des différences dans la vision du multiculturalisme, de l'interculturalisme, de ces mots qu'on ne sait pas très bien comment les définir, de ces états, en fait. Mais je me demandais, en vous écoutant et en suivant plus particulièrement le pourquoi de cette, je dirais pas colère, mais quelque part de ce mal-être par rapport au multiculturalisme, si c'était pas particulièrement selon ce que vous avez vécu, vous, dans votre pays, et qui vous a hérissé et qui a fait qu'il y avait un besoin chez vous de vous dissocier de ce que vous aviez vécu, notamment ces marques de racisme. Mais ne peut-on pas voir un autre volet de l'immigration, entre guillemets, puis après de l'installation, comme étant différente, comme des valeurs de certaines personnes venant d'ailleurs, qui, tout en s'intégrant et en vivant ce que vous avez vécu dans toutes les phases de la société, qui peut être un petit peu mon cas d'ailleurs, mais qu'en même temps, on ait envie de garder certaines valeurs du pays d'origine. Alors, ma question, elle est toute simple. Est-ce que ce n'est pas dicté particulièrement par votre vécu et que ça peut être différent sans être négatif pour d'autres Québécois ou Canadiens d'origine diverse.
Voilà. Absolument. Certain que, comme j'ai dit, le marché aux illusions, c'est une vision personnelle de la chose, hein? Qui dépend bien sûr de mes expériences, mes idées, etc., etc. J'ai toujours pensé, par contre, que toutes ces questions d'identité, de valeur, etc., du passé, hein, qui sont reliées à l'immigration, appartiennent aux individus et aux familles. Le multiculturalisme canadien officiel voulait s'imposer sur les gens, voulait que le multiculturalisme soit une sorte de théâtre public. Je crois que les familles, les parents, doivent accepter leurs responsabilités. Il y a deux choses qu'il faut reconnaître. D'abord, il y a la société à laquelle on a décidé de s'intégrer. C'est une société qui existe. Et il y a des valeurs qu'on apporte avec soi. Il y a des valeurs parfois contradictoires qu'on trouve. Je parlais de l'évolution de l'individu. Lorsque j'ai dit que, par exemple, l'Inde, pour moi, pour ma famille, c'est le passé. Okay? J'ai l'impression que, oui, on a perdu quelque chose, mais on a aussi acquis d'autres choses, d'autres richesses. Je crois que cette évolution fait partie des idées, des valeurs, d'idées. Cette évolution fait partie de la vie humaine. Et ce qui compte pour moi, là d'où vient l'identité, c'est une connaissance de l'histoire familiale. J'ai une fille, elle a 16 ans. Ma conjointe est québécoise, de souche, comme on dit. Ma fille, elle a la peau assez foncée, entre la peau de sa mère, la couleur de sa mère et la mienne. Elle n'a jamais été à Trinidad. Elle a connu certains membres de ma famille. Mes parents sont décédés, elle ne le connaît pas. Elle connaît bien sûr la famille de sa mère. Ils sont tous à Québec. Mais ce que j'ai fait, ma responsabilité, était d'expliquer à ma fille ces deux histoires. L'histoire de ma famille qui commence en Inde et l'histoire de la famille de sa mère qui commence en France, qui l'ont créé. Son histoire est personnelle. Ça n'a rien à voir avec le multiculturalisme, ça n'a rien à voir avec la société. Son identité est personnelle. L'identité est personnelle. Les valeurs évoluent également. C'est une jeune fille très intelligente. On parle souvent de toutes ces questions de valeurs, de choix, etc. Et c'est un individu. Qu'est-ce que ça me donnerait de parler des valeurs de mes arrière-grands-parents qui venaient de l'Inde? Ce n'est pas son contexte. Ça n'a rien à voir avec elle. Elle est née à Montréal. Elle grandit à Québec. Elle a beaucoup voyagé dans le reste du pays. Elle adore Toronto. Elle adore l'Espagne, la France. Elle voyage beaucoup. Et de partout, ses valeurs, elle acquiert des idées. Ces valeurs évoluent, on en discute, c'est notre responsabilité. Et elle va, bien sûr, trouver sa place dans la société où elle fait sa vie. Tout ça n'a rien à voir avec les autres. Il faut quand même accepter, lorsqu'on décide de rester dans une société, qu'il y a certaines valeurs qu'il faut. L'égalité, on les connaît, l'égalité entre les hommes et les femmes. Au Québec, le français. Alors, on peut nommer les valeurs. Et je crois que la responsabilité se trouve des deux côtés, mais que l'individu, c'est à l'individu de faire son choix. Si on ne peut pas accepter qu'au Québec, il faut parler français, on peut toujours partir. Si l'égalité des femmes ne nous semble pas telle que définie par nous, par cette société n'est pas convenable, n'est pas acceptable, pour pas rester. Je suis assez sévère parce que là, j'essaie toujours de défendre l'intérêt de l'individu. Je répète, ce n'est pas l'humanité qui m'intéresse, c'est l'individu. Et il y a toujours une certaine tension entre l'individu et sa société. Mais en fin de compte, c'est l'individu qui doit faire son choix.
Monsieur?
Vous avez répondu à une partie de ma question. La deuxième partie, c'est vos personnages qui naissent bon, dans la douche et ailleurs, en vous promenant et tout ça. Ne sont-ils pas aussi vous?
Mon Dieu, non. Je ne voudrais pas qu'ils soient moi.
Inconsciemment, ne sont-ils pas aussi vous?
Non. Je sais que souvent, je dirais que les
parce
personnages
que quand,
qui me
quand
viennent...
Quand vous dites, bon, je me promenais, bon, je ne sais pas, sous les plaines d'Abraham, tout à coup est né le personnage de Julie. Ça vous est tombé dessus. Ce n'est pas aussi intérieurement une évocation inconsciente de ce que vous êtes?
Absolument pas. Yep. Non, je sais que pour certains écrivains, oui. Pour moi, non. Ouais. En effet, c'est souvent une réaction contre. Par exemple, dans les nouvelles ou les romans où j'ai exploré toute cette question d'identité, d'exil, déracinement et tout cela, c'est précisément parce que je ne vivais pas ces sentiments-là. Je ne me suis jamais senti exilé ou déraciné ou quoi que ce soit. Mais je connaissais beaucoup de gens qui le vivaient. Et j'étais très curieux. Je voulais savoir, mais qu'est-ce que c'est de se sentir en exil ou déraciné? Et ma façon de répondre à ma curiosité, c'était en explorant ces vies-là. Vous voyez?
D'accord.
Et c'est pourquoi je dis que mes personnages naissent grâce à ma curiosité. C'est lorsque je veux essayer de comprendre quelque chose de façon très intime.
Donc, le vieil homme en feu que vous avez recréé, c'est ça?
Il y a, bien sûr, il y a d'autres moments. J'ai écrit dans Arracher les montagnes, je crois. Il y a une nouvelle intitulée « La cage », qui raconte l'histoire d'une jeune femme japonaise. Certain que je ne suis pas une jeune femme japonaise. Mais c'est basé sur, lorsque j'enseignais l'anglais à Toronto, il y avait beaucoup de femmes japonaises. Les femmes des gens qui travaillaient pour Toyota et Honda à Toronto, qui j'enseignais l'anglais. Et qui, à un moment donné, grâce aux confiances qui s'établissaient entre nous, me racontaient leur vie. Et ça me touchait énormément. Parler de leur relation avec leur mari, la relation avec leur société, avec leurs enfants. Et puis, un jour, je ne sais pas d'où, il y avait cette jeune femme japonaise, au Japon, où je n'avais jamais été, dans la maison de son père, qui quitte la maison de son père pour s'en aller, pour trouver une certaine liberté. Alors, je crois que ce qu'on trouverait dans mes personnages, ce qu'il y a de moi, c'est ma curiosité, mes obsessions, mais pas ma vie, mes intérêts.
Bien.
Mais pas plus que ça.
Merci.
Plaisir.
Il y a votre façon de les raconter.
Oui, bien sûr, qui est, oui, chaque...
C'est ça
chaque
qui
auteur
est de vous.
A sa fond. Oui, le langage qui est là.
Oui, le langage qui est là. L'écriture qui est... Oui. Est-ce qu'un personnage pourrait donc venir et vous dire bonjour dans la douche?
C'est arrivé. C'est très difficile. C'est plus facile lorsque je fais la vaisselle parce que j'appelle ma fille. Tu continues? Moi, je prends des notes.
Ah oui, effectivement. Une autre question, monsieur. Surtout, n'hésitez pas, les deux micros sont là.
Oui, je suis très intrigué par vos personnages qui surgissent comme ça, qui s'imposent par vous. Je trouve ça intéressant. Par ailleurs, vous enseignez aussi la création littéraire, que j'ai compris. Et là, ce que je me dis, c'est que votre manière de sentir des personnages et ensuite de les explorer n'est sûrement pas une manière universelle de création littéraire. Et comme vous enseignez la création littéraire, je suis curieux de savoir... Comment vous permettez à vos étudiants de trouver leur manière d'accéder à la création littéraire?
Je leur montre comment le faire en faisant des exercices. Je leur dis également que s'ils ont ils ont besoin de planifier pour lancer le roman, allez-y, faites-le. Mais vous allez trouver que je l'écris hein, dans mes cours, les façons différentes de faire. Je parle de moi-même, bien sûr, qui ne planifie absolument rien. Je me lance dans l'histoire et je me rends à la fin grâce au personnage. Je parle de John Irving, qui a besoin de tout planifier. Ben, pas tout planifier. Il a toujours besoin d'un plan. Et il essaie de planifier jusqu'à un certain point, puis il commence à écrire. Et il a déjà dit, inévitablement, après 2 mois d'écriture, il prend son plan dans la poubelle. Parce que les personnages viennent s'imposer. Tout simple. Alors, je leur explique qu'il faut que chaque écrivain trouve sa façon de faire. Certains ont besoin de planifier, et je vais vous montrer comment le faire. Certains, non. Ça commence avec une scène. Et c'est en écrivant, parce qu'on écrit beaucoup dans les cours, c'est un certificat que nous offrons avec toute une gamme de cours. Les étudiants qui ont du talent, qui sont sérieux, qui n'ont pas de discipline nécessaire, la passion nécessaire, vont réussir à trouver leur voie. Souvent, il est important, lorsqu'ils ont acquis les techniques de base de l'écriture, de les désabuser de certaines notions. Par exemple, j'avais une étudiante à la maîtrise qui avait lu Bachelard et est arrivée avec une idée pour un roman basé sur une théorie de Bachelard et tout. Tu me parles de théorie, tu ne m'as pas encore parlé de personnage. Alors, ton personnage principal, ça va être une théorie. Et elle était convaincue. Vas-y. OK, écris. Puis, on en parlera plus tard. 2 mois plus tard.
Bachelard lui-même n'écrivait pas de roman.
Non, il n'écrivait pas de roman. Bon, voilà. Alors, elle revient 2 mois plus tard, toute triste. Et elle a prononcé des mots que j'adore. Vous aviez raison. Alors, je l'ai convaincue d'abandonner la théorie, et de parler personnage. Et le roman a été publié il y a 2-3 semaines.
Ah oui?
Oui. Sandra rompre des chaînes, la maison mémoire.
Ah ben oui, mais ça c'est vraiment... Bon, alors, voilà.
Voilà, une de mes étudiantes, qui l'a écrit pour la maîtrise.
Voilà. Mais ça, c'est une question que je n'ai pas posée. Vous avez, je dirais, est-ce que ça arrive souvent?
Quoi?
Mais que des romans soient publiés à partir du travail fait dans vos cours.
On est rendu à 4 maintenant. 4 de mes étudiants ont publié les romans. Plusieurs autres ont publié des nouvelles.
Ça, c'est toujours une grande satisfaction.
Ah oui, absolument. Absolument, oui. Parce que ce sont souvent les étudiants, pas nécessairement les étudiants les plus doués, bien qu'ils le soient souvent, mais ils ont ce petit quelque chose. Parce que je dis toujours à mes étudiants, l'autre question qu'on pose souvent. Où est-ce que vous trouvez la discipline pour écrire? Et ma réponse est, écoutez, est-ce que vous avez besoin, pour aller voir un film au cinéma, ou aller prendre un verre avec les amis, est-ce que tu as besoin de discipline? Non. Pourquoi pas? Parce que j'aime ça, c'est un plaisir. Même chose. Écrire pour moi, c'est un plaisir. C'est tout simplement.
Mais si c'est une corvée, ça ne marche pas.
C'est dur. C'est beaucoup de travail, mais un plaisir quand même. Et ce sont les étudiants qui ressentent ce plaisir-là. Parce qu'ils sont là, ils luttent avec le langage, cherchent le mot juste, le personnage, essayent de les suivre. Lorsque c'est un plaisir, ce sont ces étudiants-là qui vont à la longue réussir.
Transmettent leur plaisir.
Oui.
Monsieur.
Bonjour. Au début, vous avez parlé des auteurs et des livres qui vous ont un peu influencé quand vous étiez enfant. Comme les contes et le roi Arthur. Mais je voulais savoir si plus tard, et je suppose que oui, vous avez été très influencé ou très marqué par d'autres auteurs ou d'autres livres. Et je voulais savoir aussi s'il était facile pour vous de lire en fait, d'autres auteurs quand vous étiez en train vous-même d'écrire un livre.
La deuxième question, oui, je lis tout le temps. J'ai besoin de lire aussi. Que ce soit un roman ou un livre d'histoire. Alors, je lis et ça ne m'empêche pas d'écrire mes livres. Cela répond à un autre besoin que j'ai. Quant à l'influence, difficile de parler d'influence, je parle plutôt de passion. Je suis un passionné de la littérature russe du 19e siècle. Je pense que j'ai tout lu.
Ah oui.
Je pense que j'ai tout lu. En traduction, bien sûr.
Il y a énormément de choses. Ben oui, parce que vous, vous aviez appris le russe, mais bon.
Oui, ça fait déjà longtemps. Dosvidaniya,
c'est tout ce qui vous reste.
C'est l'espaciba. C'est tout ce qui me reste. Mais, alors, j'adore Tolstoy. Pour moi, Guerre et Paix, c'est le roman de tous les temps. J'aime beaucoup Dostoïevski. Mais partant de Pushkin jusqu'au 20e siècle, jusqu'à Pasternak et Solzhenitsyn, etc. Alors, je crois que je ne sais pas ce qu'il y a dans la littérature russe, que ce soit au 19e ou même littérature soviétique du 20e siècle, mais il y a quelque chose qui me passionne, qui me parle. Je crois que c'est un mélange de... C'est une littérature très physique, intellectuelle, mais physique en même temps. Alors, ça me plaît énormément. Mais aujourd'hui, je lis beaucoup. Je lis... il y a certains écrivains britanniques que j'aime bien, comme Ian McEwan. Je n'aime pas trop. Je sais qu'il est plus facile de dire ce que je n'aime pas. Le réalisme magique de l'Amérique latine ne me dit absolument rien.
Oh, c'est une question que j'avais écrite sur mon papier que j'ai oublié de poser.
Bon, voilà la réponse. non, ce qui me fascine pour moi, c'est qu'il n'y a rien de plus fantastique que la vie humaine. Et la littérature fantastique ne me dit absolument rien. Lorsqu'un rocher devient un dragon, je m'en fous. Alors, voilà ce que je n'aime pas. Je n'aime pas non plus la poésie. Je n'ai pas la patience. À part Federico García Lorca, je suis incapable de lire la poésie. Alors, les romans poétiques ne me disent pas grand-chose non plus. Moi, j'aime beaucoup la clarté dans l'écriture. Et la poésie est souvent pour moi juste... Je lis une phrase, ou certains romans poétiques, je lis une phrase et je me demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je relis la phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas la patience.
Mais à y penser, maintenant que vous le dites, il y a une chose commune entre la mimésis russe et ce qu'il y a dans vos livres. Enfin, une chose, pas tout, mais c'est parce qu'il y a dans les romans russes de cette époque cette confrontation du destin individuel avec quelque chose de plus grand que soi qui les dépasse. Voilà. Oui. Et il y a ce choc.
Là, vous avez raison.
Mais il y a ça chez vous.
Oui, oui, je l'avoue. Mais
vous avez donné la bonne phrase, vous avez raison. La phrase que vous aimez. Madame.
Oui, j'aimerais savoir, vous nous aviez dit que vos personnages se présentent à vous et qu'ils vous font un petit coucou, bonjour, et qu'ils vous racontent leur vie. Est-ce que, suite à ça, vous dites que ça vous apporte une fatigue physique, vous avez besoin de vous changer les idées, mais malgré tout ça, malgré qu'il vous raconte sa vie et que vous sentez que ça va vers la fin, est-ce que quelque part, sans être en conflit, c'est un bien grand mot, avec votre personnage, à la fin du livre, puisqu'il vous l'exprime clairement, votre personnage, vous avez une déception que vous auriez vu le cheminement différent. Est-ce que ça vous arrive, peut-être pas à tous les livres, mais à quelques-unes de vos œuvres? Est-ce que ça vous est arrivé?
Non, ça ne m'est jamais arrivé.
Non.
Non. À la fin, je me dis que le personnage, et si je le ressens, ce n'est pas une réaction intellectuelle, mais c'est plutôt ici, les tripes. Me disent que le personnage m'a tout dit. Et ça me suffit.
Ah bon. Merci.
D'autres questions?
Alors, je ne peux pas m'empêcher de revenir, en fait, un peu plus tôt dans l'entrevue, quand vous avez parlé de ce premier livre que vous avez apporté, ce premier recueil de nouvelles que vous avez apporté à votre mère. Donc, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a un lecteur ou est-ce qu'il y avait un lecteur à qui vous pensiez en écrivant ces premières nouvelles, puis est-ce qu'il y en a encore quand vous écrivez?
Non, pas vraiment. Je pense que lorsque j'écris, je me raconte l'histoire en premier lieu. S'il y a un lecteur, c'est un homme chinois qui habite à Pékin. Je l'utilise pour expliquer à mes étudiants l'importance de la clarté. Parce que souvent, on voit tout dans la tête et on pense avoir tout dit pour que le lecteur puisse nous suivre. Mais si l'on pense que ce monsieur chinois, hein, qui n'a jamais été dans ce monde que je décris, si je pense à lui et je me demande, est-ce qu'il va me suivre? Est-ce qu'il va comprendre? Est-ce que je lui ai donné assez de détails du décor, du contexte? Est-ce que le personnage s'est exprimé assez clairement pour que lui puisse, sans expérience de ce monde, tu sais, est-ce qu'il peut comprendre? Voilà, c'est mon lecteur.
Je vous remercie.
C'est très explicite, en oui. tout cas. Neil Misundat, aujourd'hui, fait-il partie de la littérature de ce qu'on appelle le département des études littéraires anglophones ou francophones, pour vous? Pour vous?
Je ne me suis jamais posé la question. C'est une question pour d'autres personnes. Moi, j'écris mes livres, tout simplement.
C'est ça. Vous vous inscrivez dans la lignée de votre oncle. Ça a dû être un moment, un événement extraordinaire quand il a eu, en plus...
Oui, le prix Nobel. Oui, je l'ai entendu. Je venais de me lever, j'ai écouté les nouvelles à la radio. Ils l'ont annoncé. Alors, j'ai pris le téléphone tout de suite en me disant « ce serait impossible, tous les journalistes vont l'appeler ». Et j'ai réussi à le joindre tout de suite. Et non, ça a été un très beau moment. Après, bien sûr, impossible rejoindre, mais non, c'était un très beau moment. Il était très touché, très ému, parce qu'il n'est plus jeune. Et il pense souvent à son père, mon grand-père. Et si mon oncle est devenu écrivain, c'est grâce à son père.
Oui,
donc c'était le rêve d'être écrivain. Alors il a transmis ce rêve-là à son fils, à ses deux fils. Et puis, moi, je suis la troisième génération de ça. Alors, il était très ému de penser à son père qui est décédé lorsque mon oncle avait 20 ans. Il était à Oxford à l'époque. Alors, mais ça l'a toujours, c'est comme une sorte de plaie qui est toujours là. Alors, on a parlé de tout cela. C'était un très bon moment lorsqu'il a su qu'il avait... Il était en train de se raser. Et c'est sa femme qui a répondu au téléphone. Et elle a entendu quelqu'un dire, ah oui, je suis Monsieur Antel, j'appelle de Stockholm, de la Fondation Nobel. Est-ce que je peux parler avec Monsieur Naipaul, s'il vous plaît? Et elle a dit, pourquoi est-ce que vous voulez parler à mon mari? Il dit, madame, j'appelle la Fondation Nobel. Ah, excusez-moi. Il est arrivé.
Finalement, la lignée, votre lignée est une lignée littéraire, parce que ce qui vous relie à vos ancêtres... Oui. Finalement, c'est cette lignée
du livre. Et ça fait partie aussi, bien sûr, de l'héritage que j'offre à ma fille. Mm. Ça fait partie de son identité à elle. Mm. Elle adore lire, elle écrit déjà très bien dans les deux langues. Je ne sais pas ce qu'elle va faire avec sa vie. Mais déjà, là, ça fait partie d'elle-même, de sa personnalité, de son identité. Mm. Et c'est ce que je veux dire par toutes ces questions-là. C'est très familial, c'est très individuel.
Alors, je vous remercie infiniment. Vous vouliez poser une autre question, d'autres questions. Je vous remercie. Je vous rappelle que nous sommes, comme je l'ai dit, en entrant dans une bibliothèque. Vous y trouverez tout Neil Misundat en français et en anglais, également bien sûr dans les librairies. Je vous remercie beaucoup. On attend votre prochain personnage avec impatience. Et puis nous, on se retrouve au début du mois de janvier, à la mi-janvier, avec Denise Desautels. Et puis, je vous souhaite une bonne fin d'année, de bonnes fêtes et un bon début de prochaine année. Merci beaucoup.
Merci à vous. Très bien, merci.
Merci à vous.
On aurait pu se parler pendant des heures.
Oh oui. Mais on ne peut pas.
Non, voilà.